Vous êtes sur RTL. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi avec un refait le match extrêmement dense car les événements se sont précipités à propos des sports professionnels et de leur continuité ou non. Les mots du Premier ministre Édouard Philippe ont été très clairs et ressentis comme un choc. Était-ce évitable ou non, souhaitable ou pas? Avec un petit peu plus de recul, fallait-il le faire? Nous aurons pendant 30 minutes avec nous Didier Quillot, le directeur général de la Ligue de football professionnel. Nous sommes avec ce soir Philippe Sanfourche. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Denis. Bonsoir à tous.
D'RTL évidemment, Eric Silvestro d'RTL aussi. Bonsoir Eric.
Bonsoir à tous.
Stéphane Powels, bonsoir Stéphane.
Bonsoir Denis.
Et David Aiello est avec nous également.
Bonsoir Denis, ravi de vous retrouver.
Merci, c'est gentil. Et Baptiste Durieux qui s'occupera de relayer les appels de nos auditeurs qui ne manqueront pas de nous solliciter pour donner leur avis sur nos thèmes qui seront entre autres. Donc cette interview très longue et très disséquée, on va le voir avec Didier Quillot, le directeur général de la Ligue professionnelle de football. Et puis également, nous parlerons de Lyon privé de Coupe d'Europe, de Rennes, de Marseille. Est-ce viable en Ligue des Champions? Et puis de la Ligue 2, parce que le classement était extrêmement serré et il s'arrête là. Lorient et Lens seront en Ligue 1. Nous sommes avec Philippe Sanfourche, Eric Silvestro, Stéphane Powels, David Aiello. Vous êtes sur RTL. À tout de suite.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Thomas Soto, RTL Soir.
Je vous donne rendez-vous lundi à 18h, juste après les grosses têtes, pour RTL Soir. Au programme, un journal complet pour faire un point précis sur les dernières évolutions de cette crise sanitaire majeure que nous traversons, mais aussi des décryptages, des analyses par l'ensemble de la rédaction de RTL. L'idée, c'est de mieux comprendre ensemble les bouleversements actuels. Alors à lundi, 18h.
Ma chère Chantal, aujourd'hui je vais vous parler de l'accompagnement client Akena.
Te fatigue pas, Ferrand. Je sais déjà qu'avec Akena, on n'a qu'à exposer son idée de véranda et paf, il la modélise en 3D.
Vous êtes bien informé, mais est-ce que vous savez que chez Akena, ils ont un contrôle qualité, des conseils avisés, des devis détaillés?
Évidemment, monsieur Ferrand, chez la reine des vérandas, le client est roi. Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Coronavirus. Soutien immédiat aux entreprises. Les mesures du gouvernement. Vous êtes artisan, commerçant, profession libérale, indépendant ou dirigeant d'une petite ou moyenne entreprise. Si vous rencontrez des difficultés pour payer vos impôts ou vos cotisations sociales, vous pouvez demander à reporter ou échelonner leur paiement. Pour en savoir plus et bénéficier des mesures, rendez-vous sur economie.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Un grand merci d'ailleurs à Christian Olivier qui m'a supplé ces dernières semaines. En passant, nous sommes avec Philippe Sanfourche, Eric Silvestro d'RTL, Stéphane Powels et David Aiello. Avec nous également Didier Quillot, le directeur général de la Ligue de football professionnel. Didier, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous, Didier?
Ben, ça va, je suis chez moi, confiné comme tout le monde.
Alors, on va rentrer directement dans cet arrêt du football. C'est une première depuis la guerre, hein, c'est du jamais vu. Est-ce que c'est une décision uniquement sanitaire? Est-ce qu'il y a des regrets aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'on pouvait faire mieux, qu'on pouvait faire différemment?
Bah, écoutez, la question inspire un peu plusieurs éléments de réponse. D'abord, c'est une décision qui est une décision gouvernementale, qui a été communiquée par le Premier ministre à la tribune de l'Assemblée nationale mardi. C'est une décision qui est faite pour protéger la santé de nos concitoyens et éviter les risques d'une nouvelle épidémie. Et c'est une décision qui s'impose à nous. Donc nous, la Ligue, là, on a rien fait d'autre que prendre acte de la décision du gouvernement et prononcer l'arrêt de la saison. Voilà, donc ça c'est...
Ça veut dire que pour vous, Didier Quillot, le gouvernement s'est immiscé dans le sportif?
Non, le gouvernement, il a défini les conditions dans lesquelles le déconfinement allait se faire. Parmi ces conditions, il y a l'interdiction de toute manifestation publique et de toute manifestation sportive jusqu'au mois d'août, et au mois d'août peut-être, d'ailleurs, ce n'est pas certain. Et donc le gouvernement considère que c'est une des conditions pour réussir du déconfinement. Pour réussir le déconfinement, pardon, il a donné des modalités par secteur, hein, des modalités concernant les bars et les restaurants, des modalités concernant la culture, des modalités concernant le sport. Il ne s'est pas initié dans les affaires sportives, il a donné les conditions du plan de déconfinement, elle s'impose à nous et à l'évidence, elles nous ont amené à prendre cette décision qui est prononcée la clôture définitive de la saison 19-20.
Alors avant de faire intervenir nos invités, enfin tous ceux qui sont autour de la table avec nous, Didier Quillot, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment juste ce qui s'est décidé par rapport au classement de Ligue 1 et de Ligue 2? Est-ce que c'est le moins pire ou est-ce que c'est le meilleur?
Écoutez, en conseil d'administration, jeudi, on a pris plusieurs décisions. La première, c'est celle dont on vient de parler, qui était prononcer l'arrêt de la saison. Vous savez, Denis, on était prêt à reprendre. Hein. On avait préparé un protocole sanitaire et médical qu'on avait présenté au ministère des Sports, au ministère de la Santé. On était prêt à reprendre. Voilà, la décision a été prise autrement par le gouvernement. Ne revenons pas dessus. Ensuite, la deuxième décision, c'est celle d'arrêter le classement. Mais d'abord, de décerner deux titres, le Paris Saint-Germain champion de Ligue 1 et Lorient champion de Ligue 2, et ensuite d'arrêter un classement. On avait un groupe de travail qui s'était réuni à plusieurs reprises et il y avait plusieurs options sur la table. Arrêter à la J19 à la fin des matchs aller, arrêter à la J27 qui était la journée à laquelle tous les matchs avaient été joués, et arrêter à la J28 avec un quotient. On a retenu ce modèle-là à une très large majorité parce que c'était le modèle qui avait été choisi par la Fédération française de football, et on a voulu donc une forme de parallélisme des formes entre le football amateur et le football professionnel, parce que c'est une décision qui a paru comme étant la plus juste. Dans les 48 heures qui ont précédé, il y a des tas d'opinions qui se sont exprimées sur la façon de refaire le classement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris la décision vendredi, parce qu'on a considéré que dès l'instant où on avait cette décision gouvernementale, ça servait à rien de traîner et de passer des semaines et des semaines à se disputer pour savoir comment on allait arrêter le classement. Donc on l'a fait à la fois pour le parallélisme des formes avec la Fédé,
oui,
et à la fois parce que c'est la méthode qui nous a semblé la plus juste.
Philippe Sanfourche, RTL.
Oui, Didier Quillot, est-ce que vous pensez que vous n'avez pas un peu pâti dans cette prise de décision du gouvernement, des différentes interventions de tous les présidents, de ci, de là, qui ont, on le sait, agacé, pour employer un mot, un euphémisme au sein du gouvernement, parce que ça commençait à parasiter le discours, et est-ce que quelque part, vous n'êtes pas donné moins de chances finalement de parvenir à votre but, qui était de reprendre la saison, en ayant ces multiples prises de parole?
Non, les multiples prises de parole, Philippe, elles sont postérieures à la décision du gouvernement et du Premier ministre. Elles vont concerner les 48 dernières heures entre mardi et jeudi, où il a fallu, où dès l'instant où on a envisagé l'option de clore la saison, où il a fallu estimer toutes les options qui étaient devant nous pour déterminer le classement. Ce qui est avant, je pense qu'il y avait franchement un alignement total entre la Fédération française de football, entre la Ligue, entre les présidents de clubs, les entraîneurs aussi, dont il y avait eu des positions, souvenez-vous, de Rudy Garcia, de Raymond Domenech, disant que les entraîneurs voulaient reprendre. Les joueurs, il y a eu le sondage de l'UNFP qui disait que les joueurs, certains ne voulaient pas reprendre, mais certains, la majorité était prêts à reprendre, moyennant des conditions sanitaires et médicales appropriées, que nous avions définies avec les médecins des clubs et le médecin de la Fédé. Donc, il y avait vraiment un alignement de tout le monde. Simplement, le gouvernement a décidé autrement pour des raisons, je le répète, de protection de la santé de nos concitoyens. Et pour moi, on ne discute pas une décision du gouvernement, et surtout quand elle touche un problème de santé publique. Donc, voilà, après la décision communiquée par Édouard Philippe, en effet, il y a eu un peu non pas de foire d'empoigne, mais il y a eu beaucoup d'idées qui sont sorties. Ouais. Et donc c'était important pour nous de clôturer la séquence.
Des idées, Didier, un peu de cacophonie quand même. On y reviendra. Éric Silvestro,
d'RTL. Didier Quillot, le Premier ministre, a d'abord cité le sport professionnel jusqu'en septembre, puis a cité plus précisément le football. On sait qu'il n'y a pas une grande culture foot en France, en tout cas moins que dans d'autres pays comme en Italie, où la pression est beaucoup plus forte autour de ce foot. Est-ce que ça a pu aussi gêner pour empêcher éventuellement le foot de pouvoir terminer sa saison? Est-ce que vous avez été entendu, vous, à la Ligue, auprès du gouvernement pour vos arguments, ou est-ce que vous avez l'impression que la décision, elle a été prise sur l'autel de toute façon du public, et que le foot n'est pas la priorité, parce qu'en plus le foot véhicule une image de privilégiés?
Franchement, je ne crois pas du tout. Je partage aucune de vos analyses là.
C'est une question, pas une analyse.
Je pense qu'il y a eu le week-end dernier un débat au sein du gouvernement, avec le conseil scientifique, avec la direction générale de la santé, et qu'à l'issue de ce débat, la décision a été arbitrée pour les sports collectifs, pas seulement le football, pour l'ensemble des sports collectifs. Sincèrement, peut-être que dans des pays où il y a plus de culture football, les décisions sont différentes. Vous savez, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas encore un seul gouvernement, ni en Allemagne, ni en Italie, ni en Espagne, qui a autorisé la reprise de la compétition. Les Allemands ont commencé l'entraînement, les Espagnols vont le reprendre à partir de lundi, mais à l'heure où nous parlons, et en Angleterre non plus, il n'y a pas un seul gouvernement qui a autorisé la reprise de la compétition véritablement. Donc je me garderai bien de tout pronostic pour l'instant sur ce sujet.
Stéphane Powels.
Monsieur Guillaume, bonsoir. Monsieur
bonsoir.
Et vous comprenez bien, ce n'était pas vous que j'attaque, mais je vais être très clair dans ma question. Il y a une grande cacophonie, vous en pouvez faire ce que vous voulez, mais il y a certains présidents, je ne suis pas ici pour citer des noms, mais chacun a défendu un petit peu sa tartine ou son steak, comme vous voulez, et ça a été un petit peu, ça n'a pas donné une image très positive et très constructive du foot français, enfin je le trouve, et j'ai deux questions. Ma question est très claire, est-ce que monsieur Le Graët est bien le grand patron du football en France? Et ma deuxième question, elle est un peu plus difficile, je peux comprendre pour vous, et je vous répète que ce n'est pas vous que j'incrimine. Est-ce que le gros problème, si tous ces présidents ont fait comme ça des sorties un petit peu incohérentes, est-ce qu'il n'y a pas forcément un problème de gouvernance à la Ligue, où je ne vous dis pas que vous ne vous entendez pas avec madame la présidente, mais je pense qu'il y a un moment, eh bien, on ne sait pas qui était vraiment le patron. Est-ce qu'il n'y a pas manqué un peu de fermeté? Voilà, je vous le demande parce que c'est ce que l'opinion publique ressent.
Alors, il y a deux questions, Stéphane. Bon, la première, Noël Le Graët, il est le président de la Fédération française de football, qui a, comme vous le savez, autorité sur le football amateur et qui a donné une sous-délégation à la LFP pour le football professionnel. Donc c'est lui l'autorité ultime du football. Donc ce n'est pas choquant que Noël Le Graët s'exprime, bien au contraire. Et ce d'autant plus qu'il a quand même une très très longue expérience dans le football, une très, très grande sagesse. Donc moi ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Pour moi c'est une façon de guider.
C'est vrai, mais Madame la Ministre, jeudi a dû, excusez-moi de vous couper, Madame la Ministre, jeudi a dû statuer en disant, bon voilà, en accord, nous, le gouvernement, avec Monsieur Le Graët, nous avons donc décidé que. Ça partait un petit peu en sucette de tous les côtés.
Non, moi je crois, attendez, il faut qu'on refasse la genèse de cette histoire. Mardi après-midi, le Premier ministre présente le plan de déconfinement. Dans le plan de déconfinement, il est clairement exprimé que les sports collectifs, pas seulement le football, alors il cite le football parce que c'est le sport le plus populaire, mais pas seulement le football, ne peuvent pas reprendre et que les saisons doivent se terminer. Enfin, peu ou prou, ce sont les mots qu'il emploie. Ensuite, effectivement, il y a plein d'opinions qui s'expriment et c'est bien normal parce que tout le monde se doute bien qu'il va falloir arrêter la saison et qu'il va donc falloir arrêter un classement. Et donc tous les clubs sont concernés par arrêter le classement et tous les clubs s'expriment et ils ont le droit. Et c'est d'ailleurs normal. Et c'est d'ailleurs normal que les opinions diffèrent.
Et sur la Ligue, c'est vous ou comment
j'y
ça
viens,
se passe
j'y
D'accord,
viens,
merci.
Viens. Et c'est donc normal que les opinions s'expriment quand elles diffèrent. Elles s'expriment avec un peu de elles sont hautes en couleur parfois, mais elles s'expriment et c'est bien normal. C'est pour ça que nous convoquons le conseil d'administration jeudi pour prendre une décision, parce qu'il ne sert à rien d'attendre des semaines de plus des décisions du gouvernement, elles sont déjà prises. Mmh. Et donc nous, on doit prendre nos responsabilités, arrêter un classement. Voilà. Alors après, sur l'absence de fermeté, ce que vous appelez absence de fermeté, en fait, c'est silence dans les médias. Voilà. Moi, vous savez, depuis deux mois, on a travaillé pour établir des scénarios. On a travaillé avec l'UEFA. Moi-même, j'ai participé au groupe de travail de l'UEFA sur le calendrier européen. On a travaillé avec les médecins pour établir un protocole.
Didier, vous vouliez quand même que ce championnat aille au bout, si j'ai bien lu, à une époque.
Oui, bien sûr. Je souhaitais que ce championnat aille au bout, mais tout le temps, on a tout le temps dit à la Ligue, nous respectons scrupuleusement les décisions du gouvernement et ce championnat ne pourra aller au bout que si c'est dans des conditions sanitaires et médicales qui sont indiscutables. Bien sûr, je reviens sur la question de Stéphane, on a travaillé pendant de nombreuses semaines pour établir des scénarios, pour rédiger un protocole médical, pour travailler avec l'UEFA, pour travailler avec l'UNFP, pour travailler sur le dialogue social avec l'UNFP, pour travailler sur le financement de la trésorerie des clubs, et on a préféré travailler que s'exprimer dans les médias. Alors, c'est ce silence-là que vous interprétez comme de l'absence de fermeté. Je vous invite à parler avec ceux qui assistent au bureau et au conseil d'administration.
Non, Didier, je ne dis pas ça, je vous dis simplement que la cacophonie, c'est ceux qui ont parlé à tous.
La cacophonie, ce que voulait dire Stéphane, je pense, c'est le fait que on prenne la parole les uns et les autres quelquefois pour soit se contredire, soit voilà, il y a pas. On a l'impression que Noël Le Graët était le patron. Après, c'était Didier Quillot qui s'exprimait. Avant, c'était Madame de la Tour. Donc voilà, c'était.
Non, mais une fois de plus, ce n'est pas parce qu'on est silencieux dans les médias
d'accord.
qu'on n'est pas ferme.
On se retrouve dans quelques secondes, Didier Quillot, directeur général de la Ligue professionnelle de football, qui est avec nous jusqu'à 19h. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite avec Philippe Sansfourche, avec Sylvestre d'RTL, Stéphane Paulès, David Aiello. Vous êtes sur RTL, à tout de suite.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Chaque dimanche sur Paris Première, retrouvez les têtes brûlées avec l'inoubliable Robert Conrad. La série culte qui raconte l'histoire vraie de Papy Boynton à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse qui faisait régner la terreur dans le ciel du Pacifique Sud.
Montrez-moi un héros et je vous démontrerai que c'est un malheureux.
Les têtes brûlées en version remasterisée tous les dimanches à 20h50 sur Paris Première.
Maman, on mange quoi ce midi ?
Alors, on peut manger ça ? Oh, ou ça ? Oh tiens, je peux te faire ton plat préféré de quand t'étais petite aussi.
Tu vas adorer.
Ah oui, super, je veux ça.
Mais attends, faut choisir l'entrée aussi.
Avec les conserves, vous avez déjà tout sous la main pour réinventer les repas du quotidien. Des recettes délicieuses, des qualités préservées sans ajout de conservateur. Et en plus, recyclables à l'infini. Les conserves, elles ont vraiment tout bon. Retrouvez des idées recettes sur les sites internet ou les pages Facebook de vos marques de conserves préférées. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Philippe Sansfourche, avec Sylvestre d'RTL, Stéphane Powels et David Aiello. Jusqu'à 19h avec Didier Quillot, le directeur général de la Ligue de football professionnel. Didier, une dernière question sur la gouvernance. Est-ce qu'il faut vraiment faire quelque chose pour une sorte de réforme, pour qu'il y ait une plus de lisibilité par rapport à la gouvernance, justement ?
Moi, je pense qu'il faudra tirer les enseignements de cette crise.
Ça veut dire oui ?
Laissez-moi répondre. Il faudra tirer les enseignements de cette crise sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est je pense qu'il faut commencer par la question du modèle économique. Donc, à l'évidence, on a été, je dirais, dans un modèle économique avec un système inflationniste depuis de nombreuses années. À la fois l'inflation des revenus, l'inflation des charges, l'inflation des montants des transferts. Et à l'évidence, il va falloir se poser tous ensemble, y compris avec l'UEFA, pour voir comment mettre fin à cette dérive inflationniste. Il faudra peut-être introduire de nouveaux ratios dans les éléments de la DNCG, qui est la direction du contrôle de gestion, qui contrôle le modèle économique des clubs. Donc moi, je crois qu'il faudra aussi certainement mieux préparer des crises comme celle-ci, peut-être mettre en place un fonds de réserve pour les clubs. Donc je pense que le premier chantier, il est économique, parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence économique pour nos clubs.
Alors on voulait vous en parler un peu.
Deuxième chantier,
allez-y, Didier.
Celui de la gouvernance. Alors effectivement, il faut une gouvernance un peu plus ramassée. Donc c'est au
ça veut dire quoi ramasser pour nos auditeurs, Didier, pour qu'ils comprennent bien, sans langue de bois. Ben,
vous savez que la Ligue, elle est dirigée par un conseil d'administration qui a lui-même un bureau. Mmh. Il y a deux syndicats de clubs, il y a des collèges de Ligue 1 et des collèges de Ligue 2. Donc il y a des syndicats de joueurs, des syndicats d'entraîneurs, et tout ça doit cohabiter au sein d'un conseil d'administration. C'est parfois compliqué, et je pense que ça gagnerait à être plus compact en matière de management.
Vous allez réduire, en fait.
Non, je me garderai bien, là aussi, une fois de plus, sur votre antenne, de faire... vous savez, moi, je suis respectueux de l'institution et de ceux qui la constituent et des mandants de l'institution. La Ligue, c'est la maison de tout le monde, donc à commencer par les clubs, et c'est avec eux qu'il faut construire ce futur, celui de la gouvernance. Et chacun pourra faire des idées. Je suis certain que lorsque la crise sera terminée, et une fois de plus, lorsqu'on aura donné une meilleure visibilité économique pour les 6 à 9 prochains mois, il faudra aussi regarder le chantier de la
simplification
de la gouvernance.
On voulait en parler un petit peu plus tard, mais l'heure tourne, ça va assez vite. Avec plaisir. Est-ce que un salary cap, comme ça s'était fait à Saint-Etienne il y a quelques années, pour maîtriser les dépenses, est-ce que c'est envisageable dans le football d'après le virus ?
Je pense qu'il ne faut rien s'interdire. Vous parlez de salary cap, on pourrait parler aussi de ce qu'on appelle le squad limit, la limitation des effectifs. Oui, ce sont deux idées qui sont en l'air à l'UEFA et à la FIFA.
C'est primordial pour la survie.
Et je pense qu'il va falloir faire atterrir ces idées à un moment ou à un autre. Je le répète, on est une économie globalisée. Donc on a des concurrents européens. Donc ça peut pas être fait uniquement par la France. Hein, le salary cap et le squad limit, why not, pour rester en anglais, mais à condition que ce soit dans tous les pays européens en même temps, pour que la France ne perde pas en compétitivité économique. Vous savez que la France, elle a déjà un problème de compétitivité économique lié aux charges fiscales et sociales de nos clubs et pas seulement de nos clubs, de nos entreprises par rapport à nos concurrents espagnols ou allemands, par exemple. Donc il faut qu'il y ait une harmonisation ou une régulation au niveau européen.
David Aiello avait une question également sur Lyon, parce que Lyon, on va le dire quand même, on en reparlera peut-être après, surtout après entre nous, quand on vous aura laissé libérer, est le grand perdant quand même de la décision.
Si je peux me permettre, Denis, ma question portait sur la finale de la Coupe de la Ligue.
Oui, mais ça concerne Lyon.
D'accord, on est d'accord.
David Aiello, donc sur justement la finale de la Coupe de la Ligue qui intéresse Lyon.
Oui, bonsoir Denis.
Didier,
excusez-moi, on s'est connus dans une autre vie professionnelle. Denis, il est en face de moi. Bonsoir Didier, vous avez évoqué la possibilité de jouer les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue à huis clos en août. Édouard Philippe, de son côté, a évoqué une limite de 5000 personnes pour les rassemblements jusqu'en septembre. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'un scénario intermédiaire qui préserverait quelque part l'esprit populaire des finales, avec peut-être la présence de 2000 supporters de chaque club, est envisageable? Est-ce que ça, c'est une possibilité?
Alors là, par contre, là, on est dans le domaine des orientations. Autant tout ce qui concerne 19-20, on a décidé. Maintenant, pour 20-20, enfin pour la suite, pardon, on est dans le domaine des orientations. Et je vais répondre à votre question sur la Coupe de la Ligue. Notre objectif premier, c'est de démarrer la saison 20-21 en août. Et on a une date cible qui est la date du 22-23 août. On discutera de cette date-là avec les diffuseurs, les nouveaux diffuseurs de la saison prochaine, et aussi avec l'État, qui détermineront les conditions dans lesquelles on peut rejouer en août, à huis clos, pas à huis clos, avec quelle jauge, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on maintient l'objectif du 22-23 août pour démarrer la saison, et qu'on peut rejouer à partir de début août, eh bien, à l'évidence, il reste un à deux week-ends, et on pourrait loger dans ces un à deux week-ends les deux finales, Coupe de France et Coupe de la Ligue.
Alors, mais forcément à huis clos ?
Alors, je pense qu'au mois d'août, on jouera à huis clos, oui.
Alors, Didier Quillot, Roland Romeyer, l'un des présidents de Saint-Etienne, vient d'intervenir par un petit communiqué pour dire que, pour lui, il ne voulait pas de jouer à huis clos cette finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça aujourd'hui?
Alors, d'abord, je réponds que la Coupe de France, elle est gérée par la Fédé, donc je me garderai bien.
Oui, mais vous avez un avis, puisque Noël Le Graët a un avis sur la Ligue.
Non, j'ai un avis sur le spectacle qui est le spectacle football, qui est un spectacle populaire, et évidemment c'est mieux de jouer en particulier des finales devant des supporters. Si on doit jouer au mois d'août les deux finales, ça sera, je crois, sans supporters. Le gouvernement le confirmera ou pas, mais ma compréhension, enfin je pense que c'est pas seulement ma compréhension, c'est celle que Édouard Philippe a mentionné très clairement, pas de public avant septembre.
Donc Philippe, si on... Allez-y, pardon. Didier.
Donc si on joue en août, même, je crois que ça sera malheureusement à huis clos. Donc c'est ça que j'ai envie de répondre à mon ami Roland.
Merci. Philippe Saint-Fourche, RTL.
Oui, vous avez évoqué tout à l'heure la situation financière. Là, pour être concret sur les semaines et les mois qui viennent déjà, est-ce que vous pouvez nous confirmer que le diffuseur principal, Canal+, a décidé de rompre le contrat? Et est-ce que donc ça acte le fait qu'il n'y aura plus aucune rentrée d'argent de droits télé jusqu'à la fin de la saison? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous comptez aider les clubs à s'y retrouver financièrement? Je crois qu'on a entendu parler de l'idée d'un fonds de soutien, peut-être avec les dispositifs que l'État permet en ce moment de pouvoir prendre. Quelle est actuellement la position de la Ligue sur le plan financier pour pouvoir amortir globalement le choc financièrement de cette fin de saison?
Alors, je vous confirme que Canal+ a en effet résilié son contrat et qu'il n'y aura donc plus de paiement venant de Canal+ pour la saison 19-20. Nous avions rédigé un protocole avec Canal+ pour le paiement des matchs joués. Donc je ne sais pas encore ce que fera beIN, on n'a pas encore reçu de notification de beIN, donc je ne peux répondre que pour Canal+ pour l'instant, ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut effectivement que la Ligue travaille avec les clubs, la Ligue elle est là pour aider les clubs à absorber la crise de trésorerie court terme, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin, et on est en train d'y travailler, on reviendra vers vous quand on aura fini ce travail-là, mais c'est imminent.
Vous avez demandé un prêt à l'État?
Voilà, c'est le Parisien qui a sorti l'information aujourd'hui, vous auriez un emprunt en cours, lundi il y aura plus d'informations?
Voilà, lundi, je ne commenterai pas, je suis tenu par une clause de confidentialité que nous avons tous signée, au conseil d'administration et au bureau de la Ligue, dont je ne ferai aucun commentaire sur une réunion qui n'a pas encore eu lieu.
D'accord, mais il y aura bien un emprunt donc qui sera contracté.
Je viens déjà de répondre, je ne ferai aucun commentaire sur une réunion qui a lieu lundi.
S'il y a une réunion, c'est donc il y aura un emprunt contracté.
Demandé en tout cas.
Bon.
Oui. Stéphane Powell.
Je peux vous répondre pour la troisième fois que je ne commande pas.
Oui, c'est pas grave.
On a compris.
C'est pour que ça rentre bien dans nos têtes.
Didier, on a compris. On est Béatrice d'ailleurs. Mais Didier, je peux vous poser une question complètement un peu décalée, mais sur l'humain. On ne parle jamais forcément, ce n'est pas dans vos attributions, mais le football amateur, on ne vous entend pas beaucoup. Parce que c'est. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous voyez la chose? Parce que c'est quand même dramatique ce qui se passe.
Ah, je pense que c'est ce qui se passe est dramatique pour l'ensemble du sport collectif, qui est notre football qu'on aime, que ce soit en tant que professionnel ou en tant qu'amateur. C'est moi-même, j'ai été footballeur et j'étais loin d'avoir les capacités.
Mais ils se sentent un peu abandonnés, Didier.
Voilà. Donc, non, mais je pense que la Fédération française de football va est en train de d'étudier comment venir en aide au monde amateur. Et puis j'ai pas. Objectivement, je veux pas intervenir sur le sujet du football amateur une fois de plus, ouais. Qui est de la responsabilité de la Fédé. Donc moi, je vais rester sur celle qui est la mienne, c'est-à-dire le football professionnel.
Une des dernières questions, Didier Quillot, de cette soirée. Merci encore d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur général de la Ligue professionnelle de football. Est-ce qu'il y aura un mercato possible? Et surtout aussi, est-ce que vous avez une date déjà définitive, si tout va bien, évidemment au niveau sanitaire, sur la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2?
Reprise Ligue 1, Ligue 2, je l'ai dit, on espère reprendre la compétition 2021 en août. On a même une date cible qui est 22-23 août. Je pense que les entraînements, on attend là aussi les directives du gouvernement. J'imagine qu'ils pourront avoir lieu quelque part à partir de la deuxième quinzaine de juin. Je prends une fourchette un peu large. Voilà.
Philippe Sansfourche, RTL.
Oui, pour terminer sur les droits télé, les discussions ne sont pas rompues avec Canal+, parce qu'on sait que Canal+ est revenu dans le jeu sur les prochains droits, avec un rachat d'une plus de 70 matchs, je crois, sur la saison, ce qui correspond, si j'ai les bons chiffres, à 330 millions d'euros, donc c'est pas rien. La discussion va continuer, on n'est pas aujourd'hui dans une situation de crise et de blocage.
Pas du tout. Vous avez les bons chiffres, Philippe. Canal+, à partir de la saison 2021, retransmettra deux matchs par journée et Mediapro 8 matchs. On aura l'occasion de revenir dans le détail sur ça donc à partir du mois d'août, j'imagine, même avant. Et on va donc maintenant se rapprocher donc des quatre diffuseurs, parce qu'il y aura quatre diffuseurs. Il y aura Mediapro et Canal pour la Ligue 1, Mediapro et Bein pour la Ligue 2 et Free pour tout ce qui est digital, puisqu'il y aura des applications digitales un petit peu nouvelles sur lesquelles Free est en train de travailler. Je ne dévoilerai pas ce qu'ils sont en train de préparer, vous les interrogerez. Donc on va maintenant se rapprocher d'eux pour déterminer la date du démarrage et puis pour mettre en place le partenariat média avec ces diffuseurs. Donc il n'y a pas du tout de rupture avec Canal+. Il y a eu même un protocole qui a acté le paiement des matchs joués. Et puis Canal+ nous a signifié qu'ils prenaient acte de la décision du gouvernement pour reprendre les termes de leur courrier, et donc ils résiliaient le contrat, et ils nous donnaient rendez-vous pour la saison prochaine, donc d'ores et déjà pour commencer à travailler, pour la préparer.
Rapidement, David Aiello.
Ah, justement, d'ailleurs, sur ce protocole, on a cru comprendre que ce qui était prévu, que Canal+, finalement, versera moins que ce qui était prévu par rapport au match diffusé. Vous confirmez? Est-ce que cela vous convient?
Non, il y a eu une négociation qui a été conduite par une délégation de quatre présidents. Il y avait une fourchette de calcul et la négociation a produit un résultat. Ce qui est important, c'est que nous ayons été payés. On a été payés la semaine dernière.
Pas ce qui était prévu.
Alors après, vous savez, c'est toujours une négo, la façon dont si on compte en nombre de journées, en nombre de matchs, la valeur de multiplex ou pas. Enfin, après, il y a tout un valoriser des matchs de football sur une antenne de télévision. C'est un process assez sophistiqué avec plein de méthodes de valorisation. L'essentiel, c'est que on ait abouti à un accord.
Un grand merci Didier Quillot, directeur général de la Ligue professionnelle de football, d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. Merci de votre disponibilité, de votre gentillesse. On se retrouve dans quelques instants sur RTL avec Philippe Sansfourche, Eric Silvestro, Stéphane Powells et David Aiello. À tout de suite.
On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
Bonjour, c'est Stéphane Plaza. Je suis engagé depuis des années auprès des sapeurs-pompiers de France pour lutter contre les accidents domestiques. Balcon, cuisine, salle de bain, prise électrique, avec le confinement, c'est l'occasion d'en parler. Alors retrouvez-moi sur le site pompiers.fr pour apprendre en famille les gestes qui sauvent. On reste à la maison, c'est important, mais en toute sécurité.
Campagne proposée par les sapeurs-pompiers de France avec le concours du réseau Stéphane Plaza Immobilier.
Pompiers.fr, à tout de suite.
Miam, des fraises. Gariguettes, sufflerettes, charlottes et fraises rondes, elles sont uniques en goût. Laissez parler vos envies. Avec nos fraises, cultivons ce que la vie a de meilleur. Qualité, variété et fraîcheur avec les fruits et légumes d'Europe. Campagne financée avec l'aide de l'Union européenne.
Bonjour, ici Philippe Corbet, à New York pour RTL. Chaque semaine, je vous envoie une lettre d'Amérique. Et dans le dernier épisode, je vous raconte un soir qui a peut-être changé l'histoire. Un dîner mondain en smoking il y a 9 ans, quand le président Obama a humilié l'un des convives en le fusillant de blagues cruelles.
Donald Trump.
Certains pensent que c'est ce soir-là que Donald Trump, livide, furieux d'être ainsi ridiculisé, s'est décidé à se lancer à la conquête de la Maison-Blanche pour se venger.
Téléchargez dès maintenant le nouvel épisode du podcast « Une lettre d'Amérique » de Philippe Corbet sur RTL.
RTL, il est 19h. L'information, c'est avec Olivier Bois. Bonsoir.
Bonsoir, Denis. Le gouvernement a adopté le projet de loi qui va prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet. Il doit maintenant préciser dans les jours qui viennent les modalités exactes sur toutes les règles de vie qui s'appliqueront à nous à partir du 11 mai. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a précisé tout de même cet après-midi quelques points importants. D'abord, toute personne qui rentrera sur le territoire national pourra être contrainte de rester isolée. En revanche, il n'y aura pas de contrainte d'obligation pour tous ceux déjà présents sur le territoire. Concrètement, si vous êtes testé positif, on vous demandera de rester isolé, soit chez vous, soit éventuellement dans des établissements hôtels qui seront réquisitionnés. Le gouvernement, il le dit, fait confiance au civisme des gens. Le port du masque sera en revanche obligatoire dans les transports en commun. Et point important, au-delà des policiers et des gendarmes, les agents de sécurité des compagnies de transport, comme la SNCF et la RATP, auront le pouvoir de constater et de verbaliser. Ce pouvoir sera donné aussi aux agents de sécurité et aux gendarmes et policiers de réserve. À partir du 11 mai, normalement, nous n'aurons plus besoin d'attestation pour sortir de chez nous. En revanche, interdiction nous est faite de voyager au-delà de 100 km. Mais là, pour le coup, les modalités restent donc à préciser. Faudra-t-il une nouvelle attestation pour les voyages pour raisons professionnelles ? Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, y travaille toujours. Il y aura bien la mise en place de listing à partir du 11 mai. Si vous êtes contaminé, vous serez enregistré, ainsi que des éléments de votre vie pour remonter le nombre de gens par exemple, que vous avez croisé. Ces informations serviront aux fameuses brigades qui vont se mettre en place dans chaque département et qui auront la mission de réaliser ces enquêtes sanitaires pour casser les chaînes de contamination à partir d'un premier cas positif. Le monde de la culture aura des réponses mercredi. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, promet aux artistes des mesures claires pour les aider. Le secteur est en effet complètement à l'arrêt depuis le début du confinement. L'avenir ne peut pas s'inventer sans votre pouvoir d'imagination. Voilà ce qu'a écrit le chef de l'État cet après-midi dans un tweet. La SNCF a perdu 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires depuis le début de la crise sanitaire. Son patron Jean-Pierre Farandou envisage d'avoir recours à l'aide de l'État. Il reconnaît aussi que si la reprise est lente, cela pourrait entraîner des suppressions de postes. Une nouvelle inquiétante maintenant en provenance d'Italie. Le nombre de morts en 24 heures est en forte hausse. 474 morts hier. Nos voisins n'avaient pas connu pire bilan depuis le 21 avril. Ils connaissaient comme nous en effet une baisse continue. Il faut attendre maintenant de voir si c'est une tendance. L'Italie commence son déconfinement normalement dans 2 jours. Dans le reste de l'actualité, le parquet de Paris ouvre une enquête après la diffusion de la vidéo où l'on voit Éric Zemmour se faire insulter dans la rue. L'homme qui l'insulte et le menace s'était ensuite filmé pour s'expliquer justement sur son acte. On termine avec la météo. Demain, ce sera encore un temps très instable avec de fréquentes pluies et des orages sur une grande partie du pays. L'Alsace et la Lorraine s'en sortent avec de belles éclaircies. Et puis les régions du sud également, entre l'Aquitaine et la Méditerranée, profiteront également d'une belle journée ensoleillée. Les températures matinales stables, comprises entre 1 degré dans les Ardennes jusqu'à 17 degrés la maximale en Corse. Il est 19h04 sur RTL. On vous retrouve Denis Balbir pour la suite dont on refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Merci Olivier Bois. Effectivement, nous allons être avec Philippe Sanfourche, Eric Silvestro, Stéphane Powels et David Aiello jusqu'à 20h. Nous allons parler justement de l'entretien que nous venons d'avoir avec Didier Quillot, le directeur général de la Ligue de football professionnel. Nous évoquerons les cas également un petit peu club par club de tous ces clubs qui réagissent plutôt bien ou plutôt mal à ces événements. Lyon, Marseille, Rennes, Lens, Lorient qui monte, les barrages qui n'ont pas lieu. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à développer. Vous êtes sur RTL, à tout de suite.
RTL, on refait le match
avec Denis Balbir.
Vous êtes artisan, commerçant et vous voulez mettre en avant une de vos initiatives?
Participez aux Pro ont du talent 2020 en vous inscrivant dès maintenant sur lesproontdutalent.fr.
Et si vous agissez pour la sécurité de vos salariés sur la route, candidatez dans la catégorie sécurité routière.
Un événement organisé par Artisan Mag et Commerce Magazine en partenariat avec RTL.
Bonjour, c'est François Langlais. La crise sanitaire et le confinement transforment profondément notre vie économique et notre vie professionnelle. Tous les jours, je dialogue avec Catherine Mangin de RTL pour explorer les transformations qui vont frapper notre vie professionnelle et comprendre un petit peu mieux le monde d'après. Tous les jours, vous pouvez retrouver ce podcast. Il s'appelle Les hors-séries de Langlais Co sur RTL.fr ou bien sur vos plateformes de podcast favorites.
Ah Chantal, vous tombez bien. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai découvert en me connectant sur akenaveranda.com.
Ne vous dites rien, Franck Ferrand, je sais. En ce moment, vous économisez 100 euros par tranche de 1000 euros sur l'achat d'une véranda ou d'une pergola Akena.
Vous savez ça, vous?
Mais qu'est-ce que vous croyez? Je suis connecté. Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Bonjour, c'est Julien Courbet. Pour son grand retour dimanche, Capital vous propose une émission exceptionnelle et inédite. Ils font tout pour que la vie continue. Boulangers, transporteurs ou encore employés de supermarchés. Comment font-ils pour faire face à cette crise sans précédent? Au cœur des prises de décision, avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire, Capital revient sur ces semaines qui vont changer la France. Ces héros ordinaires, comment font-ils tourner la France? C'est dimanche dans Capital à 21h05 sur M6.
J'ai commencé à discuter avec Marie sur Disons Demain parce qu'elle aimait le cinéma comme moi. Quand on a les mêmes centres d'intérêt, ça facilite la conversation.
Vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Avec Philippe Sanfaux, Chéric Silvestro d'RTL, Stéphane Powels, David Aiello jusqu'à 20h. Messieurs, donc Didier Quilliot était notre invité, le directeur général de la Ligue du football professionnel. Philippe Sanfaux, je suis dans l'action.
On n'est pas très surpris finalement de ce que Didier Quilliot a pu répondre à nos interrogations. On sent par rapport, par exemple, à l'interview de Nathalie Bois de la Tour chez nos confrères du Parisien ce matin, il ne veut pas aller aussi loin qu'elle. C'est-à-dire que quand on l'interroge sur la réforme de la gouvernance, sur le fait qu'il y a, il l'évoque, il y a effectivement le bureau, l'AG, que tout ça,
le collège des clubs, syndicats,
le collège Ligue 1, Ligue 2. Mais lui, il fait le constat comme nous, en fait, finalement.
Oui, il admet qu'il y a une lourdeur.
Oui, mais c'est peut-être pas le moment, surtout. C'est-à-dire que les élections, c'est pas tout de suite. Donc c'est pas le moment de sortir du bois, quoi.
Ouais, ben après,
c'est cette sensation que j'ai eue un petit peu, c'est que, parce que là, on l'a pas évoqué clairement, mais l'un des gros problèmes, quand même, de la LFP, c'est qu'aujourd'hui, il y a une direction à deux têtes. Donc, il y a un directeur général avec des directeurs exécutifs avec des pouvoirs très élargis, donc Didier Quilliot, et Nathalie Bois de la Tour, qui est la présidente, qui, au départ, rappelons-le, a été placée là juste pour être une sorte en représentation. Elle devait avoir une voix un petit peu. On devait trancher avec le modèle précédent et Frédéric Thiriet.
T'as raison, la genèse du truc, faut pas oublier que ce sont les présidents, finalement, c'est le football pro qui élit ces gens-là, et quand ils en mettent deux à la tête de la Ligue, c'est pour en arriver à ça, c'est-à-dire diviser pour mieux régner, pour avoir finalement plus de poids. Donc ils sont pris un petit peu au piège de la structure même. On peut mettre n'importe quelle personne, il s'agit pas de remettre en cause les qualités intrinsèques des deux personnes, parce que quand on les connaît et qu'on les connaît au quotidien, qu'on dialogue avec eux, ce sont des gens qui sont intelligents, qui sont structurés, qui ont une vraie force de travail. Simplement, ils sont dans une structure qui, de fait, les empêche d'être le plus efficient possible.
Tu as tout résumé. David, quand je lui pose la question, notamment, qui sont gouvernants, s'ils sont à deux, il répond pas parce que il ne.
Je pense que c'est pas le moment de répondre à cette question.
Mais il peut pas la répondre. Et par contre, je vais reprendre aussi ce que disait mon ami Eric, c'est que bien jeudi, Madame la ministre est venue, elle a fait hop, terminé, on n'en parle plus. On a donc décidé de pas jouer, on a vu monsieur Le Graët, point barre. Donc j'ai entendu aussi monsieur qui est certainement très efficace et certainement très compétent, mais il ne se mouille de rien, il se mouille. Même quand on lui demande de parler avec le cœur sur le football amateur, c'est pas moi, c'est pas dans mes prérogatives. Il a répondu, mais j'essaye de vous faire comprendre qu'il reste à sa place et que le problème de gouvernance.
Tu voulais qu'il fasse un chèque ce soir.
Non, j'aurais aimé aussi qu'à un moment, ils nous disent, vous savez, nous sommes aussi concernés et que quelque part, on va se mettre autour de la table et on va peut-être aider aussi le football amateur. Désolé d'être dur.
Mais là, déjà, ils sont déjà dans la panade, c'est pas pour.
Denis, j'ai pas entendu.
Chacun va penser à ce qu'il veut penser.
Je n'ai pas entendu aujourd'hui de monsieur Quilliot.
L'égoïsme est le roi, là, aujourd'hui.
Mais je n'ai pas. Et puis, excusez-moi, maintenant, je vais être clair, quand même. Il y a quand même quelques présidents qui ont quand même fait des fanfaronnades.
On y reviendra.
Depuis un petit moment. et tu sens qu'il est ennuyé, tu sens qu'il peut pas répondre parce que aujourd'hui, ils sont à deux à gouverner et qu'il y a du politique là derrière et qu'ils ne peuvent pas intervenir. Et c'est très dérangeant parce que monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça de l'extérieur, eh bien, il se pose quand même une grande question.
Éric Silvestro.
Qui décide dans le football?
Non, mais pour moi, le problème, qu'il soit 1, 2, 5 ou 10, ce qui ressort de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est qu'en fait, la Ligue, encore une fois, n'a quasiment aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont fait, Didier Queneau l'a confirmé, des multiples réunions avec les présidents, avec les joueurs, avec les indicateurs, avec l'UEFA, avec les championnats européens, avec les autres ligues pour trouver les scénarios, les aides, les calendriers, tout ça. À l'arrivée, tout ça n'a servi à rien puisque le gouvernement politiquement a décidé.
Mais ça, tu peux pas blâmer de ça.
Attends, je le blâme pas. Évidemment qu'il fallait le faire parce que s'il y avait une ouverture, il fallait que ce soit organisé. Donc t'étais obligé de le faire. Sauf qu'en fait, après, tu n'as aucun pouvoir sur la décision.
Et c'est logique.
Et c'est logique aussi.
Si t'en as, tu peux en avoir. Ça s'appelle le lobby. Ça s'appelle la façon justement d'intervenir auprès des arcanes dirigeantes. Et on s'est aperçu dans les jours qui ont précédé finalement la décision du gouvernement qu'il y avait deux axes possibles. Que le vent commençait à tourner un peu et que très rapidement, vous savez, quand à la fédération, Noël Le Graët, il a eu sous les yeux le protocole médical, qu'il a vu ce que ça représentait comme lourdeur d'organisation, les milliers de tests, le fait que ça allait forcément pas être très bien pris par l'opinion publique.
C'est ça, de parce que des milliers de tests pour les footballeurs, c'était
pas possible.
Politiquement parlant, c'était compliqué à faire comprendre. Et là, vous avez une partie du football français, la partie, on va dire, fédérale, accompagnée de quelques présidents. Je pense au président de Brest, je pense aussi à Laurent Nicolas à Montpellier qui a
très président de Brest, c'était le premier à vouloir tout arrêter.
Voilà. Ces gens-là, tout de suite, ont senti que la tendance était plutôt celle-là. Alors après, peut-être qu'ils ont eu de la chance aussi. Hein. Mais du côté de la Ligue et du côté du syndicat Première Ligue, de M. Caillazo, de plein d'autres, hein, qui ont voulu aller jusqu'au bout du combat pour essayer, jusqu'au dernier moment, d'essayer de faire repartir ce championnat, eh bien, le poids politique, manifestement, c'est un constat, n'a pas été suffisamment fort pour faire infléchir la décision du gouvernement.
Et puis, Eric, toute petite précision, j'entends encore Didier Quillot et d'autres dire, on va essayer de reprendre en août, à huis clos, le championnat qui redémarre le 22 ou le 23 pour être dans les clous avec
Et la coupe aussi.
Je rappelle que le Premier ministre, lors de son allocution, a dit pas de sport professionnel jusqu'en septembre. Donc là, on est déjà dans un scénario qui est déjà hors des clous de ce qui a été décidé. Je dis pas que ça sera pas amendé en fonction de l'évolution de la crise sanitaire et que peut-être ce sera faisable, mais déjà, on parle de dates qui ne correspondent pas à ce qui a été annoncé. Donc on se met déjà à nouveau en porte-à-faux par rapport à la direction du pays.
Tout à fait juste.
Pour être positif sur M. Quillot, il y a quelque chose aujourd'hui, je ne l'ai pas entendu encore ailleurs, où il vient nous expliquer qu'il va quand même avoir une réflexion, notamment sur les salary cap et tout ça. Donc ça, c'est très intéressant.
Il a aussi dit qu'il dépendait de l'UEFA pour ça, voire de la FIFA.
Nous sommes d'accord, mais déjà,
c'est la récap et puis un petit peu de contrainte sur les contrats, parce qu'il y a des clubs où il y a trop de joueurs.
Où il y a trop de joueurs. Et je trouve que c'est intelligent.
Et ça, l'UEFA, il réfléchit déjà depuis un moment.
C'est bien de l'entendre, parce qu'il y a trop de clubs qui sont dans surendettement. Et je pense qu'à un moment, il y a la Ligue, elle va devoir mettre un moment, aussi bien au niveau des salaires, avec des normes, il va falloir réfléchir.
Après, il faut impulser. C'est-à-dire que c'est bien de dire « Ah oui, mais il faut que l'UEFA... » C'est-à-dire que dans cette histoire, encore une fois, j'en reviens toujours aux politiques. C'est-à-dire que évidemment que c'est le dernier des soucis du président de la République, Emmanuel Macron, aujourd'hui, de savoir quand est-ce que le football va reprendre. Mais quand même, dans les milliers de décisions qu'il a à prendre en ce moment, à un moment donné, il a impulsé cette volonté de mettre fin, avec son gouvernement, avec le Premier ministre, de mettre fin à la saison et d'envoyer un message, parce qu'on sait qu'il a aussi envoyé des messages plus ou moins directement à l'UEFA pour dire voilà, on est le premier grand championnat là qui dit stop, et ça va peut-être justement donner l'idée aux autres. Et on le voit, il l'a dit à Didier Quillot, aucun championnat n'est en mesure de reprendre alors qu'il est, et peut-être que la France aura senti le vent tourner avant les autres.
Alors on a terminé à peu près ce débrief sur Didier Quillot. Baptiste Durieux est avec nous pour relayer un petit peu le ressenti des auditeurs. Baptiste.
Absolument, sur le compte Twitter RTL Foot, message de Fabien, ce que je pense de tout ça, c'est qu'il aurait fallu mettre Macron à l'UEFA, Maracien Anou à la Fédération et Olivier Véran à la Ligue, ça aurait été plus rapide. Et puis le message d'Étienne, il y a de l'injustice et de la justice dans cette décision, mais quoi qu'il arrive, je suis soulagé de ne plus entendre les propositions de scénarios, les idées absurdes pour terminer le championnat, les présidents alias les Castafiore de la Ligue 1 qui avaient chacun leur petite idée, mais j'ai l'impression que les spéculations ne sont pas finies pour autant. C'est le message d'Étienne sur le compte Twitter RTL Foot.
Alors nous sommes ensemble, merci Baptiste, jusqu'à 20h avec Philippe Sansfourche, Éric Silvestro d'RTL, Stéphane Poès, David Aiello. Le grand perdant de cette décision, enfin à mon sens, c'est Lyon. Philippe Sansfourche.
Ah bah oui, c'est une évidence, c'est pour ça qu'il a gesticulé.
Pas européen depuis 1997.
Jean-Michel Aulas, effectivement, on peut quand même. Alors, dans la façon de faire de Jean-Michel Aulas, de faire des propositions de play-off, de tout ce qu'on veut, il y a un côté irritant, il y a un côté parfois même un peu grotesque, il faut bien le dire. Maintenant, il faut aussi se mettre un petit peu à la place de ce dirigeant d'un des plus grands clubs français de ces 20 dernières années.
Pourquoi
Bah parce que tout simplement.
Non, dis-moi pourquoi je vais remettre dans la place de Jean-Michel Aulas. Il a fait une saison
pour président d'un club qui
et qu'il y a beaucoup d'investissements, qu'il y a des enjeux, mais il fait une mauvaise saison. Il y en a d'autres qui ont fait des
Alors, il fait une mauvaise saison parce qu'à l'instant T en championnat, il n'est pas qualifié, mais il est toujours en finale de Coupe de la Ligue. Si cette finale ne se joue pas, excuse-moi du terme, il est marron. En Ligue des Champions, il est encore là sur un huitième de finale.
Marien est marron aussi, il y en a plein qui sont marrons.
Le match aller. Donc en fait, il avait encore des possibilités de
tromper. D'accord. Moi, je trouve que Eric Silvestre est très juste par rapport à la finale de la Coupe de la Ligue, qui peut en effet lui apporter une place en Coupe d'Europe si jamais elle peut se jouer et qu'il la gagne. Pour le reste, je trouve qu'on focalise beaucoup sur Lyon. Pourquoi ? Parce que Jean-Michel Aulas, c'est un personnage hyper important du foot français. Mais si, parce que pour moi, le club qui le
Lyon a été européen depuis 1997.
Est-ce que Lyon mérite d'être européen cette année ?
Ça a été Non mais ça a aidé.
Non mais Eric, non,
ça a aidé. Ça a aidé la France.
Il a pris beaucoup de place.
Bah, attends,
on est d'accord. Ça a aidé quand même la France à avoir un bon indice UEFA que Lyon fasse des bonnes saisons européennes chaque année.
Bien sûr, Denis.
Même si les supporters lyonnais n'étaient pas contents.
Non mais moi, je suis d'accord avec vous. Sauf que là, on parle de classement de cette année pour attribuer les places européennes. Oui. Lyon, à l'heure actuelle, sur ce que j'ai vu des 28 journées disputées, ne mérite absolument pas d'être dans les places européennes. Et pour moi,
rester 10 journées. Rester 10 journées. Il peut se passer plein de trucs.
Monaco, Montpellier, tout le monde pouvait remonter aussi avant ces cas-là.
Non mais ce que je veux dire, c'est que Lyon a un CV. Lyon a un CV d'être européen.
Mais sur quelle d'accord. dynamique était Lyon Je voudrais finir. Pour Eric moi, le club qui est vraiment pénalisé dans cette décision d'arrêter le championnat, c'est Lille. Pourquoi c'est Lille ? Parce que Lille, certes, sauvera une place en Coupe d'Europe en Ligue Europa, mais on sait tous que la Ligue Europa, c'est rien du tout par rapport à la Ligue des Champions.
C'est rien du tout. Déjà, ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions cette année, c'est pas la peine de la jouer.
Regardez la dynamique.
Zéro point en Ligue des Champions.
On verra combien Marseille fait de points l'année prochaine en Ligue des Champions.
Peut-être plus que zéro, en tout cas.
Le débat n'est pas là. Lille, regardez la dynamique de Lille.
Si, le débat est là, puisque tu me dis Lille, c'est plus triste que pour Lyon.
Non,
parce que Lille n'a pas été européen depuis 1997, tous les ans.
Mais Lille était en train de fondre sur Rennes et Marseille.
Ça veut rien dire.
Il y avait une dynamique quand ça s'est arrêté. Lyon n'était absolument pas dans une dynamique.
Metz était en train de fondre, il serait champion.
Denis.
Je vais parler de choses cohérentes.
Vous parlez d'argent et d'image et Lyon, effectivement, ça représente beaucoup de choses. Et j'ai envie de parler émotionnellement. Ça veut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de clubs qui peuvent se plaindre de la situation, de ce qui se passe là. Moi, j'ai envie de me mettre dans la peau des mecs d'Amiens, quoi. Parce que Amiens, si vous. Non, laissez-moi finir. Amiens a aussi. Alors, même si vous allez me dire, il y a peu de gens s'occupent du cas d'Amiens, mais Amiens, je vais vous répondre quand même que ce club pouvait encore s'en sortir. Pouvait encore s'en sortir sportivement. Et donc là, on parle d'une rélégation. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence avec Lyon ? Ben, c'est la même chose, à des degrés différents.
C'est beaucoup plus grave.
Donc, j'ai dû dire à un moment, moi, je veux bien Lyon. Et écoutez, j'ai beaucoup de respect de ce qu'est M. Aulas et ce qu'il a représenté pour vous. À un moment, stop. Il fait une mauvaise saison. Il est septième au classement. Eh bien, c'est comme ça. Et je vois pas pourquoi il faut plus pleurer pour M. Aulas que pour les gens d'Amiens.
Je pleure pour personne.
Non, mais moi, je vous donne mon point de vue.
Parce que là, les choses sont trop graves pleurer sur Lyon ou sur quiconque
mais vous savez bien que mon petit cœur est lillois.
C'est pas ça que
vous savez bien que mon petit cœur est lillois. J'ai pas envie de pleurer pour Lille. On est à notre place. C'est comme ça.
Voilà.
Faut rester clair.
David Aiello.
Non, sur le cas Aulas, juste de manière peut-être un petit peu plus posée que Stéphane, juste factuellement, on peut observer quand même que, et ça fait peut-être quelques mois, voire quelques années qu'on l'observe un petit peu, il a un petit peu perdu la main quand même sur sa communication, parce que ces deux dernières prises de position, à savoir la saison blanche et le fait de qualifier Lyon par le biais de la saison précédente, il s'est fait allumer de partout parce que c'était quelque part ridicule. Et il allait encore plus loin avec le scénario des play-offs, puisque je rappelle que ce scénario-là, puisqu'on parlait de Metz à l'instant, permettait à Metz, qui était 15e de Ligue 1 au moment où on l'a arrêté, de devenir champion de France en l'espace de 5 matchs. Puisqu'il y avait 6 matchs, j'ai le prévu, tu remportais 5 matchs, tu pouvais être champion de France. Donc ce scénario-là, il était absolument pas crédible. Et même ridicule. Et je trouve que sa communication, là, elle a perdu. Autant à chaque fois, on voyait, il y avait quelque chose de brillant chez Jean-Michel Aulas et on se disait à chaque fois, ah bon, il énerve, mais quand même, c'est très fort. Là, je trouve qu'il est un petit peu en train de perdre la main.
C'est marrant parce que vous focalisez tous sur Aulas, mais le président de Lille qui dit n'importe quoi depuis 3 semaines, personne n'en parle.
Je tapé sur les doigts aussi. Vous aurez remarqué que Noël Le Graët est sorti du bois à plusieurs reprises, notamment sur les fonds d'investissement étrangers pour essayer de sauver les clubs français. Il a pris un vrai coup de règles quand même. Hein.
Et on juste rappeler Jean-Michel là, juste pour dire que ce qui m'embête un petit peu, c'est que auparavant, il arrivait quand même un petit peu à faire passer l'idée qu'il agissait pour l'intérêt du football français dans son ensemble.
Mais personne n'y a cru, David.
On y croyait ou pas, mais ça passait un petit peu. Là, dans cette fin de saison, ça a été tellement manifeste qu'il pensait qu'à l'OL, évidemment, quelque part, était dans son rôle, mais qu'il était prêt pour ça.
Il
à
a
marcher.
Porté un club pendant 30 ans mais à bout de bras. Il pense qu'à l'OL. Mais tu veux qu'il pense à qui?
Il marche. Là, il était prêt à marcher sur la tête de tout le monde.
N'oublions pas qu'il est quand même proche. Enfin, il est dans l'équipe de Noël Le Graët au sein de la fédération.
Tout à fait.
On va se quitter. Ça l'engage aussi auprès du football français.
Dans quelques secondes, on se trouve, parce que là, c'est chaud. Mais on va reparler de Lille. Ça va faire plaisir à Stéphane Powels. Dans quelques instants, qui est avec nous, Stéphane Pauls avec David Aiello, Baptiste Durieux et les auditeurs. On va prendre des auditeurs dans quelques instants, notamment des supporters lyonnais. Eric Silvestro, Philippe Sansfourche d'RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite sur RTL.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Ceci est un message de l'assurance maladie. Pendant l'épidémie, l'assurance maladie se mobilise pour protéger la santé de tous et répondre à vos demandes grâce à ses services en ligne. Avec le compte Amélie sur amélie.fr ou sur l'application, vous pouvez suivre vos arrêts de travail, vérifier vos remboursements, télécharger une attestation de droit ou d'indemnité journalière, ou encore commander une nouvelle carte vitale en cas de vol ou de perte. Pour trouver des réponses à vos questions générales sur vos droits et démarches, vous pouvez aussi vous rendre sur le forum Amélie.
L'assurance maladie. Miam, des fraises. Gariguettes, sufflerettes, charlottes et fraises rondes, elles sont uniques en goût. Laissez parler vos envies. Avec nos fraises, cultivons ce que la vie a de meilleur. Qualité, variété et fraîcheur avec les fruits et légumes d'Europe. Campagne financée avec l'aide de l'Union européenne.
Tous les soirs à 20h, vous ouvrez vos fenêtres pour témoigner votre solidarité aux soignants. Jeannot, fabricant français de fenêtres, avec son réseau de partenaires certifiés, s'associe à votre geste tout le mois de mai en reversant à la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France 15 euros par fenêtre vendue. Plus d'infos sur partenaires-jeannot.fr.
Christophe Paco sur RTL.
Ce week-end, venez nous raconter votre confinement, votre façon de vivre, vos bons plans, vos astuces avec toute l'équipe des Petits Matins Week-end. Nous sommes là pour vous, samedi, dimanche, entre 5h et 7h, pour prendre de vos nouvelles, vous informer, vous guider, jouer, échanger, sans oublier vos chroniques habituelles, ciné, sport, musique, animaux, traditions, gourmandises ou encore les questions au saut du lit. Et pour nous joindre, un seul numéro de téléphone, vous le connaissez, le 3210-3210.
50 centimes la minute.
Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
RTL Petit Matin Week-end, présenté par Christophe Paco, chaque samedi et chaque dimanche de 5h à 7h.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Avec Philippe Sansfourche, Eric Silvestro d'RTL, Stéphane Powels et David Aiello, nous parlions de Lyon, de Jean-Michel Aulas. Lyon privé de Coupe d'Europe, la première fois depuis 1997. Donc effectivement, les supporters sont inquiets. Il y a une finale de Coupe de la Ligue qui va jouer contre le Paris Saint-Germain. C'est évidemment pas gagné d'avance. Frédéric est avec nous. Frédéric, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci de votre patience. Frédéric, donc Lyon, c'est le grand perdant pour vous aussi de cette décision?
Oui, c'est le grand perdant. Alors, c'est vrai que dans ces périodes-là, vous savez, c'est comme dans le changement et l'accompagnement au changement. Il y a beaucoup de réactions de type émotionnel dans un premier temps avant de revenir à quelque chose d'un peu plus raisonnable. Et donc, c'est normal qu'il y ait des réactions un peu disproportionnées et qui sont très émotionnelles. Moi, je pense qu'il va falloir rapidement revenir à quelque chose de plus raisonnable et plutôt d'essayer de faire de ces problématiques une opportunité pour tous les clubs. Quelles que soient les décisions qu'aurait prises la Ligue, de toute façon, ça aurait fait des contents et des mécontents. Si on avait fait une saison blanche, on aurait entendu d'autres personnes être mécontents. Là, en l'occurrence, c'est contre l'Olympique Lyonnais et d'autres, je pense à Amiens en particulier. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc la proposition, où j'ai plusieurs propositions à faire, c'est de se dire finalement, comme on a une Coupe du Monde en 2022 qui va se dérouler au Qatar, qui va nécessiter une modification du calendrier, est-ce qu'on pourrait pas d'ores et déjà se caler par rapport à une reprise pour s'adapter au calendrier 2021-2022 ou 2022?
Déjà, Frédéric, juste, je réponds là-dessus.
David
le problème, c'est que pour le faire, il faut le faire. On peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire que si la France fait ça, il faut que ça soit aligné sur l'UEFA. Mais effectivement, ça serait une piste qui pourrait penser.
Proposition de Jean-Pierre Hivert, le président de Nice, depuis le début.
La Russie le fait déjà depuis des années pour des raisons météorologiques et il n'y a pas de raison que nous, on puisse pas s'aligner là-dessus. Et puis la deuxième chose...
En même temps, la Coupe du Monde au Qatar en 2022, c'est l'hiver, mais c'est une fois. Ça va pas être au Qatar tous les
quatre. Tu peux saisir l'opportunité pour.
Voilà, c'est une opportunité pour.
Sauf qu'avant, vous avez un euro à jouer l'été prochain qui a été reporté.
Oui, mais il y a d'autres pays qui sont aussi concernés par ce type de problématique et pour eux, ça leur pose pas problème. Encore une fois, c'est un problème, soit on en fait une opportunité. Et je pense que là, il faut plus se réunir en se disant qu'est-ce qu'on fait comme opportunité pour pouvoir renforcer le football français par rapport à ça. Et
exemple, je l'avais fait la proposition déjà la semaine dernière, mais c'est de se dire finalement, comme on a des clubs qui se disent comme l'Olympique Lyonnais, nous on est encore qualifiés en Ligue des Champions, il n'y a pas de raison qu'on soit pas européen l'année prochaine. Est-ce qu'on pourrait pas, si les coupes nationales ne se font pas, et j'ai quand même la forte impression qu'elles ne se feront pas, est-ce qu'il faudrait pas se battre pour obtenir des wild cards, par exemple pour l'Olympique Lyonnais ou pour l'AS Saint-Etienne, sur les futures coupes d'Europe, et l'UEFA pourra tout à fait s'organiser et s'adapter au niveau des calendriers.
Tu vas pas t'en sortir, Stéphane Poët.
Tu vas pas t'en sortir.
Il y en a trop qui vont la demander, ça va être ingérable.
Oui, mais je me permets juste d'insister là-dessus. Est-ce que finalement, ça pourrait pas être l'opportunité, là aussi, de revenir à une Coupe d'Europe peut-être un peu plus directe, avec des matchs à élimination qui permettrait de pouvoir faire jouer.
Là, c'est la révolution, là, Frédéric. Là.
Oui, mais c'est justement, c'est une opportunité. Alors peut-être que cette proposition est.
C'est la révolution, en même temps, c'est le vrai football.
Mais je suis contre. Jusque-là, pour renverser la table, là, c'est quelque chose.
Ça veut dire que c'est pas le sens de l'histoire.
Justement, est-ce que c'est pas le moment de pouvoir essayer de réfléchir à un nouveau football.
Alors moi, je pense vraiment que dans la réforme actuellement, avant d'évoquer tout cela, qui est intéressant, c'est d'abord de faire des réformes pour que nos clubs puissent survivre. Parce qu'on est dans une situation catastrophique avec ce qui vient d'arriver et qu'il y a des clubs qui vont crever de faim. Et je parle des clubs professionnels, là je parle pas de football amateur. Et donc je pense qu'il va falloir mettre.
Il y a des clubs. Je vous interromps, Stéphane, deux minutes. Il y a des clubs comme Brest, comme Nantes, Bordeaux, notamment, qui sont inquiets parce qu'ils perdent les sponsors.
Ils perdent leurs partenaires. Et donc ça veut dire aussi. Et je peux comprendre les partenaires. Ils ont d'autres priorités. Vous sauvez l'emploi. Enfin, on va pas refaire toute l'histoire du coronavirus. Mais par contre, il y a des clubs qui vont souffrir. Mmh. Et je pense qu'il va vraiment falloir mettre quelque chose en place. Et Monsieur Kyo, tout à l'heure, ok, bien sûr, il y a l'UEFA et tout ça, mais je pense qu'ils doivent y réfléchir parce que tu peux plus faire, il y aura du surendettement, ou alors on va avoir un championnat, c'était déjà un peu le cas, à deux fossés, les riches et les pauvres, mais on va vraiment y arriver, c'est-à-dire qu'on va avoir un championnat avec 6 clubs,
attends.
Bah on va y arriver.
Les riches et les pauvres, moi, je veux bien tout ça, mais tu as quand même une redistribution des droits télé
mais c'est pas suffisant,
qui vont être énormes.
Si Media Pro suit, comme on l'espère tous, comme ça a été conclu dans le contrat initial, tu vas avoir une redistribution
qui est très importante pour
ces petits clubs.
Mais Philippe, t'as raison, mais
ils sont pas directement
Philippe, que tu comprennes bien sûr qu'il y aura une redistribution des enveloppes. Mais il y a des gens, des clubs qui sont actuellement avec de l'acquis et avec des choses rétroactives qui ont été faites. Des contrats de 3 ans, 5 ans, une enveloppe. Eh bien, c'est ce que je veux te dire. C'est qu'à un moment, si on ne remet pas en place très vite une vraie structure...
Mais ça, c'est le financement d'urgence. Et ça, on l'a abordé avec Didier Quillot.
Dans le long terme, il n'y a pas que dans l'urgence.
Dans le long terme, c'est tant que tu as diffuseurs qui sont intéressés au niveau où ils le sont,
Philippe,
avec les montants qu'on a...
Diminuons le nombre de joueurs sous contrat. Faisons plus confiance au centre de formation. Revenons aux vraies valeurs du centre de formation pour qu'à un moment les clubs puissent survivre. Arrêtons d'acheter des étrangers à des prix de dingue avec des contrats de fous. Revenons à
des choses. Salaires aussi.
Des salaires de dingue.
Des joueurs moyens qui sont exceptionnellement.
Revenons à des choses normales pour rééquilibrer la situation. Et ceux qui vont être beaucoup plus riches, je prends l'exemple du Paris Saint-Germain, tant mieux pour eux pour qu'ils puissent jouer à plus haut niveau.
D'un seul coup a fait découvrir à l'ensemble du monde du football que cette économie était un peu en déséquilibre et que certains avaient joué un petit peu avec le feu.
Philippe, tu connais la phrase de Jacques Brel, faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Ça fait 10 ans que ça dure dans le football où les gens
jouent. Ça c'est pas parce qu'il y a une crise telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est une crise structurelle qui existait bien
nous
avant.
D'accord. Et donc, mais je dis pas le contraire.
Tu as des clubs comme Angers, comme Reims qui sont parfaitement à l'équilibre, qui savent travailler. Ils ont pas eu besoin d'avoir une crise pour ouvrir les yeux et dire ah mince, on était au-dessus.
Non. Combien de clubs qui travaillent bien
avant,
vas-y,
hein.
Donne-moi un chiffre. Il y a combien de clubs en Ligue 1 qui travaillent bien?
Je t'en ai cité deux, il y en a d'autres.
Ça fait beaucoup sur 20. Il y en a combien qui sont dans la mouise? Il y en a plus 6-7 qui sont dans le gouffre financier.
On va remercier Frédéric, supporter de l'Olympique Lyonnais, très mesuré dans son jugement, et tant mieux, c'est très bien. Bravo pour votre sportivité. On va retrouver Julien dans quelques secondes. On se retrouve nous aussi après une pause avec Philippe Sanfaux, Eric Silvestro d'RTL, Stéphane Powels et David Ayello. À tout de suite sur RTL.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
RTL.
La musique sur RTL, c'est ça. Toute la journée, vos artistes préférés sont sur RTL. Des nouveautés, des standards et les plus grands classiques sont sur RTL. On aime la musique sur RTL.
Dites donc, Franck Ferrand, j'ai vu qu'Akena vous a séduit avec ces pergolas. Encore une fois, vous faites comme moi, donc.
Mais non, Chantal, non, c'est simplement que chez Akena, il y a du choix. Vous ne connaissez pas leur large gamme, ça me déçoit de vous. Bioclimatique, toit ouvrant, lames orientables, ouverture intégrale.
Mais si, je les connais. Pff, je les ai toutes vues sur akenapergola.com. Dites donc, c'est qui se prend la grosse tête, non, j'ai l'impression. Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Attention, série culte dimanche sur Téva. Dynasty, le remake de la série des années 80, est de retour pour une deuxième saison inédite. Entre les deux familles les plus riches des États-Unis, la lutte pour le pouvoir s'intensifie. Les Carrington sont plus que jamais déterminés à se relever et à reconstruire leur dynastie. Dynasty, saison 2 inédite, dimanche à 20h50 sur Téva.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Philippe Sanfourche, Eric Silvestro d'RTL, Stéphane Powell et David Aiello. Nous sommes avec Julien, supporter de Lyon. Bonsoir Julien.
Bonsoir tout le monde.
On va rappeler que Lyon donc sera privé de Coupe d'Europe puisque le classement a été arrêté comme suit. Paris Saint-Germain champion, Marseille Rennes en Ligue des Champions, Lille en Europa League, Nice et Reims en Europa League si le Paris Saint-Germain gagne ses deux finales contre l'Olympique Lyonnais et l'Association sportive de Saint-Étienne. Julien, vous êtes donc supporter de Lyon. Quel est votre ressenti par rapport à ça?
Alors, je suis pas très partagé. C'est-à-dire que d'un côté, je me dis que c'est bien fait pour nous d'être avec ce budget-là, 7e à 10 journées de la fin. Et de l'autre côté, je me dis que 10 journées, c'est quand même 30 points. Et on connaît Lyon pour la force qu'ils ont pour les finishes. Et que je me dis que on aurait pu arriver sur le podium, déloger Saint-Étienne, déloger Rennes
Lille,
ou pas,
ou Lille.
Mais comment faire du coup? Compte tenu de la situation et des impératifs énoncé par le gouvernement, comment faire autrement que ce qu'on a fait?
Honnêtement, je ne sais pas, parce qu'il y en a beaucoup qui sont lésés et il y en a d'autres qui ne sont pas lésés. Par exemple, voir Rennes avec la saison qu'ils font, au niveau du jeu qu'ils produisent, en Ligue des Champions, enfin, même s'ils vont être en tour préliminaire, pour moi, pour l'image du foot français qu'on va redonner à l'étranger,
ouais, ça on peut pas, c'est tellement subjectif que c'est pas des critères qu'on peut redonner.
Oui, parce qu'on peut pas dire, on peut pas dire, Julien, que Lyon a fait rêver tout le monde à tous les matchs.
C'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis que je suis partagé en disant que avec le budget et les joueurs qu'on a et qui sont, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit avant au niveau des salaires des joueurs. On fait venir des joueurs comme Andersen qui ont des salaires mirobolants et qui ont fait que Cagat ou d'autres joueurs. Il y a pas que lui, hein, d'autres joueurs.
Vous êtes pas les seuls, mon cher ami.
Oui, on n'est pas les seuls, mais nous, on est l'Olympique Lyonnais. Et l'Olympique Lyonnais, depuis 1997, c'est l'année où j'ai commencé à suivre le foot. On était en Ligue des Champions. J'ai pas connu une seule campagne de foot avec sans l'OL, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe. Et dans les années précédentes, il y a Paris, Lyon et aussi Monaco qui ont fait du beau boulot en Ligue des Champions. La dernière prestation de l'OM en Ligue des Champions, c'est 0 point sur 6 matchs. Donc voilà. Après, chacun défend son bistec.
Oui, Julien.
Moi, je trouve que arrêter la saison comme ça, c'est normal parce que il y a d'autres préoccupations beaucoup plus importantes que d'aller taper dans un ballon, même s'il y a des millions qui sont en jeu, il y a la santé qui est plus importante. Mais de l'autre côté, je me dis que le président Lasse, il a un club, il défend son club comme personne, et je suis sûr que n'importe quelle autre équipe de foot professionnelle serait ravie d'avoir un président qui se bat bec et ongles pour son club. Maintenant,
Julien, Eric Silvestro, RTL.
Julien, moi j'entends ce discours, mais est-ce que vous avez entendu le président de Montpellier, Louis Nicolas? Est-ce que vous avez entendu le président de Monaco qui a eu le même nombre de points que Lyon? Est-ce que vous avez entendu le président de Reims, de Nice qui sont devant Lyon au classement? Est-ce que vous avez entendu le président de Lille? Oui, lui on l'a entendu malheureusement.
Parce que
moi je veux bien que Lyon dise on aurait pu en 10 matchs remonter, dépasser. Déjà, il y avait 10 points de retard sur Rennes, 9 sur Lille, derrière Reims, derrière Nice, le même nombre de points que Monaco, que Montpellier. Enfin, avec des si, on refait le monde et personne ne peut refaire le monde. Donc aujourd'hui, Lyon était 7e. Lyon n'était pas qualifié en Coupe d'Europe. Point barre, c'est comme ça. À la limite, Lyon doit se battre pour jouer la finale de la Coupe de la Ligue, parce que là, il y a une vraie possibilité de jouer l'Europe. Et surtout, Lyon doit espérer et faire le forcing auprès de l'UEFA pour que les matchs de Ligue des Champions puissent se terminer cette saison, puisque Lyon est encore qualifié. Là, oui, sportivement, Lyon a des arguments, mais dans le championnat de France, Lyon n'a aucun argument pour dire on aurait fait ci, on aurait fait ci, on aurait fait ça. Les autres peuvent dire la même chose. Donc le classement, il est tel, il est arrêté, point barre, et on s'arrête là.
Et surtout, je ne suis pas si sûr. Et là, on va parler ballon.
Attendez, laissez réagir Julien.
Être 7e à 10 journées de la fin, avec l'effectif qu'on a, c'est pas normal. Et je suis entièrement d'accord.
Mais Monaco, on peut dire le même.
Non, mais il était d'accord avec vous. Stéphane Powell.
Mais non, mais j'ai juste envie de te dire, on ne sommes pas Nostradamus, on n'a pas de boule de cristal. Et Lille, qui était en train de jouer de mieux en mieux aussi, pouvait aussi revendiquer.
Mais ça veut rien dire.
Donc c'est du tout et n'importe quoi.
Philippe Sanfourche, RTL.
Peut-être que si...
la voie de la sagesse.
On l'espère pas, mais si la Ligue des Champions... m'en prêtez beaucoup. Si la Ligue des Champions ne va pas à son terme, parce que si d'autres championnats comme ceux comme la France ne peuvent pas se terminer, les joueurs ne reprennent pas l'entraînement, ils n'ont pas la possibilité de jouer une compétition comme la Ligue des Champions, et donc ça s'arrêtera de fait. Si cette compétition ne va pas à son terme, si cette édition ne se termine pas, là, peut-être que, comme tous les clubs qui étaient encore en lice dans cette Ligue des Champions, peut-être que là, cette possibilité, entre guillemets, de wildcard, elle pourra être entendable. On pourra dire, tiens, un club comme l'Olympique Lyonnais, ou comme la Juve, qui n'était pas encore éliminée, ou comme... Voilà, ces clubs-là...
Entendable, mais difficile à mettre en place. Hein.
Oui, mais non, difficile à mettre en place, mais ça vaut le coup quand même. Je trouve ça plus légitime que d'aller spéculer sur un club qui est 7e et qui dit, oh, on aurait pu finir éventuellement
3e. On finit bien les saisons.
Que ça, parce que sur tous les clubs qui sont encore en lice en Ligue des Champions, les 3 quarts, voire à mon avis les 9 dixièmes, seront d'office qualifiés pour la Ligue des Champions grâce à leur classement en championnat. Tu parles de la Juve, qui est première, donc elle sera qualifiée. Donc peut-être que Lyon sera un des seuls clubs qui pourrait bénéficier d'une wildcard parce que par le championnat, il n'est pas
parce qu'ils n'ont pas été intéressants de travailler cette piste-là, effectivement.
Julien et tous autour de la table, moi, il y a une question quand même qui me vient à l'esprit, c'est qu'au cas où Lyon ne serait pas qualifié pour une Coupe d'Europe, les joueurs de Lyon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rudy Garcia, qui est quand même venu à Lyon pour ça, parce qu'on connaît...
Il va rester, puisque personne n'en veut.
Bah, il va rester.
La question va se poser pour Depay. La question va se poser pour Depay.
Il y a Aouar.
Aouar, voilà.
Oui, il a quand même réussi à faire ce qu'il avait promis, c'était qualifier l'OM pour la Ligue des Champions.
Alors après, qu'est-ce qui va se passer pour les joueurs de l'OL?
Oui,
moi,
Julien.
Je pense que comme l'Euro a été reporté en 2021, je pense que certains joueurs comme Aouar, comme Dembélé, bon, je parle pour les joueurs français, hein, Aouar et Dembélé, ou même Memphis pour les Pays-Bas, je pense qu'ils vont rester une année supplémentaire pour donner une chance de jouer quand même l'Euro.
Ouais, bonne réflexion.
Et pour deux raisons.
Parce que Aubry de Paille, il va pas jouer l'Euro s'il sort de Lyon.
Ça dépend des propositions. Frédéric, pour deux raisons. Pour deux raisons. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'effectivement, pour les raisons sportives, comme tu dis, mais deuxièmement, ce mercato-là, il va se passer comment? Puisqu'on ne sait toujours pas quand on va reprendre le football. Et donc, moi, je pense qu'il y aurait une drôle d'économie dans ce mercato. Qui va transférer qui? C'est-à-dire, qui va venir chercher Aouar à un gros montant? Qui va avoir les moyens de venir acheter Aouar?
C'est ce paramètre-là qui peut sauver,
même
entre
si guillemets,
les effectifs.
Moi, je trouve que c'est un très bon joueur. Ouais. Ils vont rester. Et vu le salaire qu'ils ont, parce qu'ils ne sont pas malheureux à Lyon, hein, je pense qu'ils sont bien payés.
Depay,
ils mangent de la viande avec de la sauce tous les jours.
Mais enfin, Dembélé, il y a Chelsea et Manchester United qui le veulent, il aura un CR 10 fois plus,
mais
peut-être pas 10, mais 3, 4, 5 fois plus.
Mais ils vont l'acheter combien? Ils vont l'acheter combien?
La réponse à la question, on l'a déjà, c'est que les clubs français vont être terriblement handicapés dans ce mercato d'un point de vue financier, parce qu'ils n'ont pas les mêmes structures.
Pas Lyon, hein.
Lyon également. Lyon n'a pas les mêmes moyens que même que le 10e de Première Ligue. Donc ils ne pourront pas lutter.
On va arrêter avec l'Olympique Lyonnais parce qu'il y a d'autres clubs à citer et dont on doit parler. Julien, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci,
c'est très sympa. On va passer à Marseille. Marseille, donc, qui est, lui, comme club directement qualifié en Ligue des Champions.
C'est David Aiello, le spécialiste, parce qu'il a
non, David Aiello, c'est le PSG.
Non, il connaît bien le président et il a
des gros.
Et le président est ravi. Il y a une belle culture de l'argent à Marseille. Tout va bien.
David Aiello, Marseille en Ligue des Champions, avec cet effectif-là, cette équipe-là, avec des moyens limités. On parle même d'une offre du Milan AC aujourd'hui pour Thauvin. David Aiello.
L'équation, elle est extrêmement compliquée. On sait que l'OM a perdu l'année dernière 90 millions d'euros, qu'il y a de l'argent qui va rentrer dans les caisses de manière miraculeuse, mais méritée via la Ligue des Champions la saison prochaine. Il n'empêche qu'au milieu de tout ça, il va falloir quand même à la fois combler ce déficit de 90 millions d'euros, ne serait-ce que vis-à-vis de la DNCG, également vis-à-vis du fair play financier. On rappelle que l'OM a été embêté pour les saisons précédentes.
Ils ont quand même, et là c'est peut-être une chance pour eux, annoncé au niveau de l'UEFA qu'ils allaient faire preuve de plus de souplesse par rapport à la crise qu'on connaît.
Pour la crise actuelle, mais pas forcément pour ce qui s'est passé avant. Et on sait que l'OM est déjà dans le collimateur pour ce qui s'est passé les 2-3 saisons précédentes.
Bien
donc
sûr.
Il y a cette équation-là quand même à résoudre, tout en renforçant l'effectif. Moi, franchement,
mais si t'as pas
de
mon cher David, tu vas devoir aller Marseille en Champions League. Soyons sérieux. Qui est à vendre dans ce club et qui vaut beaucoup d'argent? Si vous me sortez Germain, si vous me sortez, je ne sais pas.
Non, alors, t'as dit beaucoup, donc.
Alors,
ils sont un peu visés. C'est des joueurs comme Sanson.
Sanson, très bien, Sarr, tout ça. Ils vont les vendre combien pour acheter qui? On parlait aujourd'hui de Slimani, par exemple, un joueur qui pourrait éventuellement aller à Marseille.
Mais non, 400 000 euros.
Mais voilà, 400 000 euros de salaire. Marseille, à quoi comme enveloppe budgétaire? Ou alors, il va falloir que l'investisseur, l'Américain,
McCourt,
va devoir... Frankie, c'est bon. Ouais. Ils remettent un petit peu de caillasse pour pouvoir acheter. Je ne sais pas, l'OM, moi je suis très inquiet, l'OM va jouer avec moi.
Je suis toujours inquiet quand c'est Marseille.
La chance de l'OM, à mon avis, c'est qu'il y a aussi des joueurs qui ne voudront pas partir. C'est-à-dire que Thauvin, clairement, dit, c'est encore un joueur qui a une valeur marchande, même s'il n'a pas joué depuis des mois.
Oui, enfin, si le Milan met une enveloppe sur Thauvin. Ouais,
mais Eric, vous croyez qu'il va aller à Milan avec... Mais moi, j'y crois pas une seconde. Mais il va jouer la Ligue des Champions avec Marseille à un an de l'Euro.
C'est quel intérêt de Thauvin? C'est pas avec un Thauvin que tu fais un effectif pour jouer avec des champions.
Mais peut-être que Thauvin va vouloir rester, peut-être que Payet, un an de l'Euro, va vouloir rester. Alors, après, tu vendras peut-être 11, Thauvin. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que sinon, Thauvin, tu le vendais clairement, tu vois, s'il n'y a pas les champions. Sûr.
Non, mais c'est vrai. C'est
là,
vrai.
Tu vas peut-être le garder.
Eric a raison. On va avoir Frédéric, supporter de l'Olympique de Marseille. Frédéric.
Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je vous avais, parce qu'il y a une petite qui me chagrine. Ah. C'est quoi le sujet? Le sujet, vous voulez pas voir si l'OM a des bonnes finances pour aller loin en Coupe d'Europe? Non, c'est pas ça qu'on parle. Là, moi, je parle d'une chose. Quand on dit que l'OM, et je ne suis pas de parti pris, hein, ça veut dire que par exemple moi, je ne suis pas d'accord avec certains de vous, je pense que Lille était sur une bonne... Ils auraient pu dépasser l'OM. Par contre, Lyon, ils sont à 16 points de Marseille, à Paris,
c'est clair. Ils ne
voyaient pas comment ils pouvaient passer de Marseille.
Je suis d'accord avec vous.
Et quand j'entends Toulouse réclamer quoi que ce soit, il est décroché complètement.
On y viendra.
Mais ça, c'est les mauvais produits.
C'est vraiment des choses qui sont... On ne peut pas demander ça quand il dit ça, il n'est pas crédible. Après, quand vous dites il a participé, Lyon a participé pendant des années à la Coupe d'Europe, oui, toutes les années, ils ont participé. Le meilleur résultat de Lyon, je pense que c'est une demi-finale de Coupe d'Europe battue contre une équipe. Les quarts de finale contre Bordeaux, alors que vous voyez quand même Marseille qui a fait quatre finales de Coupe d'Europe.
Mais d'accord, mais la régularité, c'est quand même important.
Non, mais c'est pas la régularité.
Ah bah si, être en Coupe d'Europe tous les ans, ça s'appelle la régularité.
Reims participe toutes les années au championnat de France.
Attends, excuse-moi, je vais te poser une question, parce que là, on parle de l'histoire
de l'OM.
Supporter de l'OM. Fred, on est tous bien d'accord de ça, avec ton bel accent chantant. Dis-moi simplement, si tu es supporter de l'OM, sportivement parlant, et tu connais les finances du club, t'es quand même inquiet, tu vas jouer avec quoi en Champions League? C'est ça la question.
Mais on participerait, on fait comme Lyon depuis des années.
Vous allez faire quoi?
Bah, si on c'est juste pour y aller et faire zéro point, comme ça avait été le cas lors de la dernière participation.
Tu vas pas les empêcher.
Laissez parler Frédéric.
Je rappelle que c'est pas moi qui l'ai dit, ça, c'est qu'il y a des joueurs de la
Laissez parler Frédéric, s'il vous plaît.
Voilà. Frédéric. Est-ce que Lyon, quand tu joues la championne, il dit qu'il va la gagner? Est-ce qu'il pense la gagner?
Pourquoi vous parlez des autres? Frédéric, excuse-moi, réponds-moi. Frédéric, laisse-moi juste encore te poser une question. Je voudrais que tu me répondes, parce qu'on aime l'OM et tout le monde aime l'OM, c'est pas le problème. Pourquoi vous parlez des autres? Je te demande, avec cette équipe, avec quelle équipe tu vas jouer l'année prochaine? Dis-moi, en Champions League. Mais réponds-moi, tu n'as pas de réponse.
Mais je ne veux pas te répondre, parce que je ne le sais pas.
Je tourne des boules de cristal, tiens, et allons en Champions League. Voilà.
Et comme tout le monde. Et pourquoi? Et tout le monde, c'est des boules de cristal. On ne sait pas
le résultat. Rennes, c'est pareil.
La question qu'on se posait, c'était de savoir est-ce qu'effectivement, là, il ne faut pas être inquiet pour l'OM. On est juste de répondre à cette question.
Rapidement, s'il faut qu'on parle de Rennes et de Lens.
On va être inquiet pour l'OM, il n'y a pas de souci. Je ne dis pas le contraire, finalement, il y a des inquiétudes. Maintenant, quand je parle de est-ce que l'OM a mérité, par exemple, de terminer deuxième, je suis désolé. Lille, on les a rencontrés deux fois, on les a battus deux fois cette année.
Frédéric, la question est simple. Est-ce qu'avec le 11 que Villas-Boas fait tous les week-ends, est-ce qu'avec ce 11-là, tu peux bien figurer en Ligue des Champions, oui ou non?
Sortir de la poule, quoi.
On fera pas plus mal que Lyon et que les autres.
Frédéric,
factuellement, Lyon, à un moment où on se parle, quand la compétition s'est arrêtée, ils étaient en huitième de finale de la compétition et ils avaient gagné le match aller face à la Juventus. Pour ce qui est des autres clubs français engagés en Ligue des Champions hors PSG, parce qu'on sait que c'est un cas à part, depuis maintenant plusieurs années, que ce soit l'OM, que ce soit Lille, c'est des bananes. C'est-à-dire que c'est zéro point, c'est rien du tout. Et on le voit d'ailleurs au niveau du championnat de France ou dans les coupes. Le Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'il est mis en difficulté ou battu régulièrement, que ce soit sur un match à Gerland, que ce soit, c'est face à Lyon. Le PSG n'a de difficultés dans le cadre du championnat de France que face à Lyon.
Lille.
Factuellement, jamais c'est contre l'OM. Puis ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas eu un problème.
Alors on va dire une chose.
Frédéric, un dernier mot.
Lyon a un bon potentiel. Lyon a encore des pièces. Alors ils ont des passes droits, et on va dire que c'est mieux que ce soit Lyon que l'OM. Eh bien non, ils ne méritent pas.
Ah non, non, c'est pas ça.
On n'a pas dit. On n'a pas dit.
Jamais, Frédéric, attendez, parce que là, ça, on ne peut pas entendre ça. On a juste dit que Lyon était régulier et que Marseille, on s'inquiétait par rapport à l'effectif actuel pour jouer une Ligue des Champions.
C'est tout ce qu'on a dit. Sa place en Ligue des Champions la saison prochaine.
Ils sont réguliers dans la médiocrité.
Ne vous focalisez pas sur Lyon. On vous parle de Marseille. Je vous demande si aujourd'hui, avec le 11 que Villas-Boas fait, est-ce que Marseille va bien figurer en Ligue des Champions? Oui ou non?
Peut-être que oui. Et pourquoi? Il y a deux ans, on
n'a pas fait
la Coupe de
l'UEFA. Ah, si, tout à fait.
Enfin, l'UEFA, la Ligue des Champions, c'est pas exactement la même chose.
Bonne mère.
Comme
oui, il y avait Bilbao.
Comme il y avait
Leipzig. Leipzig, à l'époque, était 11e.
Non, mais là, David, non.
Mais si, c'est la réalité.
Non.
Mais si,
pas de mauvais choix. Frédéric, on a bien compris que vous êtes supporter de l'OM, mais surtout que vous voulez, comme nous, que Marseille aille loin en Ligue des Champions. Mais on s'inquiète quand même du fait de l'effectif actuel. On parle bien d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura des joueurs, des miracles.
L'entraîneur, il va rester, Henri Villas-Boas?
On espère. On va parler dans quelques instants de Rennes et de Lens. Merci beaucoup, Frédéric, en tous les cas, d'avoir été avec nous. On va rappeler aussi pour cette Ligue 1 le classement final: Paris Saint-Germain, Marseille, Rennes en Ligue des Champions, Lille en Europa League, ça va être fabuleux, Nice et Reims en Europa League aussi, sauf si le Paris Saint-Germain bat Lyon et Saint-Etienne,
ou si ça ne se joue pas,
voilà. Et puis on va rappeler aussi que Lyon, Lille, Amiens, Toulouse, Troyes, Ajaccio et Clermont
en Ligue 2
ont fait un recours pour justement contester cette décision. On va parler maintenant de Lens, avec un Giordano tout à l'heure, on aura un supporter de Lens. Lens qui remonte en Ligue 1. Alors là aussi, parce que moi je veux bien qu'on parle toujours de la Ligue 1, que c'était disputé, que Lille fait une fin de saison fantastique d'habitude, que c'est génial, qu'ils vont dépasser
Lyon.
Lille. Lille, je parle de Lille.
D'accord. Ben ouais, le LOSC, on était en pompe.
L'argument, c'est de dire qu'en Ligue 2, c'était quasiment en 4 points.
C'est terrible.
Les 4 premiers, et que tout à coup, on nous dit, Lorient va monter. Le président Ferry dit c'est génial parce que pour l'entraîneur Pélissier, puis le jeu qu'on a fait, c'était le Barça, donc c'est normal.
Et Ajaccio.
Lens, on va d'ailleurs féliciter Philippe Montagnier qui a participé.
Quelle histoire de foot, quoi. Il se fait virer.
Stéphane Powell.
Non, mais vraiment, cette histoire de Lens, d'abord, je trouve ça génial. Et je pense que tous ici, autour de la table, de retrouver à Bollard et de chanter les corons. Tout ça est très bien, c'est sûr. Par contre, cette montée, elle s'est faite la boum comme ça à cause de cette situation. Il y en a deux, trois derrière, dont Ajaccio, je pense qu'ils étaient dans le combat pour essayer de monter. Alors, Lens, c'est aussi une situation très particulière. On va y revenir. Montagnier, il fait tout le travail. On le met dehors, un nouvel entraîneur. Ils n'étaient pas si sûrs que ça de pouvoir monter sportivement. Et ça se passe. Grande question. On est tous bien contents que Lens revient. Nouveaux investisseurs. On pense aussi, parce que je voudrais avoir une pensée très émue, franchement, pour Daniel Leclerc de là-haut. Il doit être très content de voir son club qui remonte. Et Gervais Martel, qui est quand même toujours là aussi, dans l'ombre. Mais comment ils vont faire aussi? Parce que le budget, ils vont devoir le trouver. Il va falloir trouver. Si vous avez vu jouer Lens autour de la table cette année, il va falloir au moins une dizaine de joueurs, hein, pour monter en Ligue 1.
Il faut des joueurs qui mettent des buts.
Ouais. Donc ça va être aussi compliqué. Mais vous avez raison, Denis, c'est que cette montée, elle fait mal à certains. C'est difficile à jouer.
Lorient, 54 points, il restait sur 4 défaites consécutives. Donc là, on peut parler aussi de se dire que c'était la cata. Lens, 53 points. Ajaccio, 52. 3, 51. Et Clermont, 50. On va parler aussi de Nîmes. Nîmes devait jouer ou pouvait jouer des barrages.
C'est terrible.
Ils sont sauvés, mais pour Ajaccio.
Trois, qui est un club qui a déjà joué, évolué en Ligue 1 souvent, qui n'était pas loin de il jouait vraiment la montée. Ça doit être terrible pour se remettre.
On peut dire qu'il joue bien, il joue mal, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a une situation sanitaire catastrophique, que le gouvernement a pris des décisions qui s'imposaient qu'on n'avait pas le choix que de trouver la moins mauvaise solution.
D'accord, mais dans ce cas-là, on reste chez nous, on ne parle pas.
Mais non, mais c'est pas la peine de tourner autour du pot.
Moi, je te dis que les équipes en Ligue 2 se tenaient en 4 points.
Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre?
Rien.
Voilà.
On essaie juste d'expliquer que dans l'économie de ces clubs-là, ça va être difficile pour se remettre en question.
Je te dis que quand tu es supporter de 3 ou joueur à 3,
tu pleures, et puis c'est comme ça.
Philippe Sanfourche, c'est quand même magnifique, au-delà de tout ce qui se passe, et puisqu'on parle pour rien dire, comme le dit David Aiello, que Lens soit en Ligue 1.
Ce sera magnifique si on peut remettre des supporters dans les stades.
Oui, bah ça, c'est sous-entendu.
Parce que
déjà qu'il m'a saoulé à droite, vous n'allez pas me saouler à gauche.
Non, mais, je veux dire, la puissance émotionnelle de ce club passe évidemment par ses supporters.
Ils sont passés. Alors, tu sais, Lens l'année passée.
J'en profite parce qu'il est 19h48 et je voudrais pas terminer cette émission sans rendre un hommage à quelqu'un qui a quitté le monde, qui a disparu malheureusement cette semaine, qui est James Rohff, qui était un des grands supporters historiques du Paris Saint-Germain, mais qui a aussi contribué à sortir le mouvement supporter et ultra de l'ostracisme dans lequel on le connaissait, qui a été notamment à la création du mouvement de l'ANS, l'Association Nationale du Supporterisme. Et voilà, il nous a quitté cette semaine et
il a été salué par l'ensemble des supporters
pour lui rendre hommage.
Mais vous savez, le club de Lens, c'est aussi toute une économie d'une région. Il n'y a pas que le foot, quoi. Et vous savez que cette ville, et c'est vraiment ça, les corons, c'est que le club a failli monter l'année passée. Ça ne s'est pas fait.
Il y a tout le travail de Gervais Martel, c'est ce qu'on parle.
Mais l'année passée, ils ont raté la montée à ce fameux match de barrage
de fin de saison
sur une erreur de leur gardien. Je trouve qu'il y a quand même quelque part, dans le malheur, une justice. Je trouve que Lens qui monte, c'est pas un scandale. Mais je me mets à la place de Troyes, qui doivent avoir mal au derrière, Ajaccio aussi. Quand David, tu dis c'est pas grave, c'est comme ça, bien sûr que c'est comme ça. Mais ça fait mal.
C'est qu'on peut pas faire autrement.
C'est plus difficile de s'en remettre, de rater une montée comme ça, parce qu'il faut trouver du budget et des sponsors, il n'y en a pas. Dans l'Aude, si vous pensez qu'à Troyes, vous retrouvez des millions de sponsors pour refaire une équipe compétitive, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile.
Christian Olivier est avec nous. Christian ?
Bonjour, messieurs.
Comment allez-vous ?
Oh, vous avez été particulièrement injuste avec le dernier auditeur supporter de l'Olympique de Marseille.
Pas
très franchement, ce n'est pas beau.
Non, mais si c'est pour nous appeler pour être de mauvaise foi, c'est pas la peine.
Non, mais je vais le défendre. Vous posez une question, vous les spécialistes, à propos de laquelle vous n'avez même pas de réponse.
Si
lui ne peut pas vous répondre également avec l'effectif. Mais attendez, il aurait dû vous répondre par une autre question.
Prenez son accent, imitez-le, puis faites-le.
Non, il a une bonne question.
Allez-y.
Non, parce que je ne veux pas caricaturer l'accent des gens de Marseille.
C'est pourri, on les adore.
Mais il aurait dû vous répondre par une autre question. En l'état actuel des choses, quel autre club français a l'effectif suffisant pour jouer, pour bien figurer en Ligue des Champions la saison prochaine ?
En Lille. Tout cas, tous n'ont pas 90 millions
répondez
d'euros de déficit.
Répondez à cette question, messieurs.
Eh bien, je pense que Lille aurait une équipe plus compétitive, mon cher Christian.
Vous pensez, mais vous n'en êtes pas sûr.
Ah non, je ne suis pas un moine trappiste.
Personne n'est sûr de rien, là, aujourd'hui, Christian.
Alors, laissez faire
Christian, ce que vous pointez, c'est que la situation économique est très délicate. Donc, l'effectif actuel, combiné à cette situation économique délicate, fait qu'on est inquiet pour l'OM.
Mais on peut être inquiet, mais on ne peut pas empêcher l'Olympique de Marseille et lui faire un procès d'intention qu'un autre club mériterait de jouer à la place de l'Olympique de Marseille.
On
pose la question avec quelle équipe ils vont jouer, Christian.
On s'est posé une question en forme d'inquiétude sur le format actuel de l'Olympique de Marseille et son 11 de départ, qui serait un peu léger pour jouer la Ligue des Champions.
Mais il y a du sous-texte dans votre question et il n'est pas assez l'auditeur pour vous répondre.
Ah, mais c'est pas vous qui me demandiez de faire du sous-texte parfois ?
Mais non, mais là, très franchement,
Christian, on lui a demandé quatre fois.
D'abord, sur
Christian.
Un critère sportif et uniquement un critère sportif, Marseille, avec le règlement qui a été adopté, on en pense qu'on en veut de la part de la Ligue, et bien avec ce règlement-là, c'est Marseille, et avec n'importe quel
Mais Christian, nous sommes d'accord avec ça. On lui a juste posé la question, footballistiquement parlant, comme il y a des soucis d'argent, comme ils n'ont pas beaucoup de joueurs à vendre, et comme ils n'auront pas des gros moyens pour transférer, on se demande avec quelle équipe ils vont jouer en Champions League. C'est juste ça,
Vous avez la réponse ? Et si vous avez la réponse, Stéphane ?
Non, mon cher Christian. Non,
mais alors, comment voulez-vous qu'il vous réponde ?
Parce que je pense qu'on est là pour donner notre avis, on dit qu'on est inquiet.
On dit qu'on est inquiet par rapport à l'effectif actuel pour jouer la Ligue des Champions.
Mais ne remettez pas en cause la légitimité de Marseille à jouer.
On n'a jamais dit ça, je crois qu'on s'est mal entendu. On s'est mal compris.
C'était en faisant mon footing, j'avais mal compris.
Ah, voilà,
vous avez mal couru.
Attention de ne pas trébucher avec la dérogation.
Allez, bonne soirée, les amis.
Merci, Christian. Et on va prendre Giordano, supporter du Racing Club de Lens, qui doit lui être heureux et on le comprend. Giordano, bonsoir.
Bonsoir Denis, bonsoir à toute l'équipe. Bien sûr qu'on est heureux en plus en cette période de confinement, c'est une très belle nouvelle, une très très bonne nouvelle.
Alors, comment vous voyez l'installation de Lens en Ligue 1 ? Bon, d'abord, c'est évidemment pour tout un peuple de supporters lensois qu'on connaît bien, un soulagement, j'imagine, aussi une joie. Mais comment vous voyez parce qu'il faut s'installer en Ligue 1. On sait que c'est quand on descend, vous êtes Lens est un exemple, Auxerre en est un autre, c'est difficile de remonter.
Exactement. Bon, on a la chance d'avoir des infrastructures. Donc là, au niveau des infrastructures, au niveau du centre d'entraînement, du stade Bollard, du public, tout ça, il n'y a pas de problème, c'est réglé. Par contre, il faudra garder, à mon avis, les leaders d'état d'esprit qu'il y avait dans cette équipe. Donc, je pense aux Corses, à Cahuzac, à Leca, également à Guillaume Gillet. Ensuite, il y a des jeunes très prometteurs. On parle de Charles Boly qui est quelqu'un qui explose, qui est en train d'exploser actuellement. Simon Banza, voilà, c'est tous des jeunes joueurs qui peuvent franchir ce cap.
Mon ami.
Donc il faudra recruter mon, un petit
mon,
peu quand même.
Mon ami, et tu sais très bien que en tant que
Stéphane Powell,
en tant que Belge, j'aime Lens, mais je connais votre équipe.
J'aime Lens,
j'aime le Nord, Marseille. C'était les corons.
Non, mais
j'ai vu cette équipe. Tu me parles de Guillaume Gillet, avec énorme respect de Guillaume. Je veux dire, les bonnes carrières, les bonnes saisons, elles sont quand même derrière. Donc il va te falloir.
Mais je parlais de leader d'état d'esprit.
Non, mais des leaders, tes leaders, ils doivent sur le terrain pouvoir jouer.
Le problème
jouer.
De Stéphane, c'est qu'il n'est pas attentif.
Non, c'est pas ça, j'ai bien entendu ce qu'il a dit. un leader dans un noyau, c'est aussi un quelqu'un qui est leader sur le terrain. Moi, je pense que les joueurs que tu viens de citer, et avec énorme respect de Guillaume, je pense plus qu'ils sont encore, et c'est un humble avis, à un niveau extrêmement élevé, je vais peser mes mots, pour pouvoir tirer Lens en Ligue 1. Il va falloir transférer. Et je ne vous dis pas que Lens n'a pas les moyens, mais il vous faut minimum 7-8 joueurs. Hein. De cette équipe que j'ai vue, il vous faut des joueurs. Et l'entraîneur, quid ? On ne sait toujours pas, est-ce que l'entraîneur qui a fait un match va être laissé en place ? Ou on parle déjà de d'autres entraîneurs, je vois dans la presse, bon après les bruits de couloir, mais Lens va devoir vraiment se mettre autour d'une table, je pense qu'il y a de bons dirigeants, mais ça ne va pas être facile pour se maintenir en Ligue 1. C'est mon point de vue et je le souhaite de tout cœur.
Moi, je pense qu'il faudra, bien sûr, des joueurs surtout à potentiel offensif, des joueurs à caractère offensif, mais en prenant cette bonne base défensive, que Lens est l'une des meilleures défenses de Ligue 2, en ayant ce gardien Jean-Louis Léca qui transmet énormément de choses à ce groupe, moi, je pense qu'avec quelques leaders, ça peut se maintenir.
Merci beaucoup, Giordano, et on vous souhaite une belle saison à venir, en espérant qu'elle soit effectivement belle pour tout le monde et tous les supporters. Avec le Racing Club de Lens, nous allons parler de Rennes maintenant, Rennes en Ligue des Champions. Là, Philippe Sanfourche, on tient quand même un coach qui est, justement, on parlait de tenir, qui tient la route, hein, qui a fait ses preuves, même si c'est un jeune coach, un jeune entraîneur, avec un bel effectif quand même. Mais est-ce que ça va suffire, Philippe Sanfourche ?
Il est évident qu'il va falloir, là aussi, renforcer cette équipe pour des échéances européennes. On l'avait vu que la saison précédente, Rennes avait justement su gagner un petit peu en structure, en stature, avec un parcours européen qui avait révélé aussi des joueurs et un état d'esprit. Mais après, ils ont eu des départs importants de joueurs comme Benjamin André, comme Ben Sebaïni, des joueurs qui donnaient un petit peu du mordant.
Ils ont quelques bons jeunes,
du talent avec Ben Arfa et compagnie. Ils ont eu des départs. Ils se sont reconstruits, mais quand vous parlez avec Julien Stéphan, il a l'honnêteté intellectuelle d'admettre que cette équipe, finalement, c'est aussi une façon de montrer qu'il a bien travaillé. Intrinsèquement parlant, elle était moins forte cette année qu'elle ne l'était la saison précédente. Donc il va falloir doublement se renforcer pour affronter les échéances européennes.
Baptiste Durieux, on répercute un petit peu ce qui se passe sur les réseaux.
Bien sûr, message de Laurent. Si Rennes a fait entre guillemets bonne figure en Ligue Europa, en Ligue des Champions, je vais fermer les yeux devant les matchs. Il n'est pas très optimiste, Laurent. Message de Flavien aussi. Tiens, Lorient pour les derbies de la Bretagne, Lens pour l'histoire, pour les corons, pour Bollaert. La Ligue a gagné en perdant Amiens et Toulouse aux dépens de Lorient et Lens, nous dit Flavien. Et puis un petit message sur Marseille de Vincent. Marseille en Ligue des Champions, c'est chouette. L'hymne de la Ligue des Champions Vélodrome, c'est sympa, mais une fois que le premier match de poule va commencer, on va moins rigoler. Ce 11 m'a fait rêver, mais il va me faire pleurer.
Rapidement, un supporter de Rennes, Benjamin, est avec nous. Le Stade Rennais en Ligue des Champions. On a vu qu'en Europa League, c'était pas tout à fait ça, mais il y a eu quand même des moments contraires avec des décisions arbitrales, des cartons rouges, etc., qui ont un petit peu pénalisé Rennes dans ce parcours. Est-ce que vous êtes plein d'espoir, plein d'attente, plein d'envie? Vous pensez que ce Rennes va s'en sortir?
Ben écoutez, tout d'abord, bravo à l'analyse de Monsieur Sanfourche, je pense qu'elle est vraiment très très bonne. Clairement, il y a de l'envie, bien sûr, parce que c'est la première fois que Rennes termine sur le podium et ça peut être la première participation en Ligue des Champions. Je pense qu'il n'y a pas à avoir honte, on y va quand même avec une équipe, notamment autour du coach, qui est solide, mais qui a besoin d'être renforcé hein, sur deux ou trois postes, notamment en défense centrale. Mais voilà, il y a deux ans, par exemple, quand on a éliminé le Betis, personne ne donnait cher des chances de qualification de Rennes. Mmh. Au match aller contre Arsenal, on avait été très bon aussi. Donc, bien entendu, Rennes ne sera absolument pas favori en Ligue des Champions, mais de là à être ridicule, il y a quand même un juste milieu.
Moi, je ne vais pas juger Rennes sur ses résultats. Moi, je vais juger Rennes sur comment ils vont appréhender la chose. À savoir, est-ce qu'ils vont perdre des joueurs importants ou est-ce que justement, ils vont les retenir pour pouvoir figurer le mieux possible en Ligue des Champions. Est-ce qu'on va pouvoir recruter un tout petit peu, pas des grands noms, parce qu'à Rennes, on sait bien qu'il ne va pas y avoir des folies, mais voilà, est-ce qu'on va essayer de progresser, de franchir une étape supplémentaire parce que ça voudra dire qu'en championnat, Rennes pourra encore bien figurer l'année d'après et donc peut-être s'installer dans un cycle où ils joueront régulièrement la Coupe d'Europe. C'est pas l'année prochaine, les résultats en Ligue des Champions qui m'intéresse. C'est la vision du club à moyen terme.
Parce que c'est vrai que le projet jusqu'à présent, on a eu le sentiment qu'on sait qu'il y a eu différentes périodes dans l'histoire du club récente. Il y a eu un moment où on s'est dit, tiens, l'actionnaire qui a quand même des moyens conséquents, pourrait aider le club à franchir, à entrer dans une nouvelle dimension. Et puis là, depuis quelques années, on a compris que c'était pas du tout l'idée, qu'il fallait un petit peu s'autogérer. Là, il y a quand même une opportunité différente. Il y a l'appel d'air financier que représente la Ligue des Champions pour que l'actionnaire envoie un signal.
L'arrivée de Florian Maurice, c'est pas non plus pour acheter des pâquerettes.
C'est bien, hein.
On est dans ce sens-là.
Mais messieurs, on n'a pas parlé de Toulouse.
Attendez.
C'est triste. Je suis très triste parce que Denis Balbir voulait parler de Toulouse. C'est le fan club de Toulouse.
Non, je vais en parler, mais je voulais déjà saluer pour moi ce que je trouve vraiment la réaction magnifique de Laurent Nicolin.
Ouais, la grande classe.
La grande classe de Laurent Nicolin qui a parlé d'être digne, d'être décent, etc. Et le contraste avec Olivier Sadran, le président de Toulouse, qui nous fait un recours à la Ligue en sachant que son club a été quand même dernier de la première à la 28e journée et qui dit que potentiellement c'était possible
mais
de sauver.
Il a vraiment touché le fond.
Après, les situations ne sont pas non plus les mêmes.
Attendez. Le président Sadran a voulu vendre son club il y a de ça 3 mois. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il a cherché des investisseurs. Enfin,
Maintenant, je trouve ça un peu choquant.
Et pour revenir sur M. Nicolas, le président de Montpellier, on a eu la semaine dernière un agent de joueur qui nous expliquait que son joueur était malade et que ce club fait pas Fred Gérard nous a dit que ce club avait de l'empathie. Et ben voilà, c'est ce qu'on veut voir aussi dans le football français, d'une belle image d'un président qui est cohérent et qui raconte pas de conneries.
Je vous remercie, je remercie également Didier Quillot qui, je vous rappelle, était avec nous en début d'émission, le président de le directeur général de la Ligue de football professionnel, c'est un lapsus. C'est pas le président, c'est le directeur général. Merci à David Aiello, Stéphane Pauls, Baptiste Durieux, Eric Silvestro et Philippe Sanfourche d'RTL. On se retrouve samedi prochain dans quelques secondes, 20h, à tout de suite sur RTL.
On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.